I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 ce matin jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30 pour l'heure des pros. Ce sont toujours les mêmes mots, la litanie des indignations. Inadmissible, dit l'un. Intolérable, renchérit l'autre. Nous veillerons, assure un tel. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Nous mettrons en œuvre tous les moyens. Et comme dans la chanson de Francis Cabrel, ça continue encore et encore. Ça continue parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. 40 policiers sont attaqués chaque jour et dimanche à La Courneuve, des jeunes gens, parfois mineurs, âgés le plus souvent de moins de 25 ans, ont mitraillé à coups de tir de mortier un commissariat durant une heure. Jeunes gens, pour certains, connus des services de police et déjà interpellés au mois de juin dernier. Que faire ? C'est assez simple. Celui qui touche un policier, qui attend à sa sécurité, 10 ans de prison. Automaticité de la peine, pas de possibilité pour le magistrat d'adapter la sanction. On me dira que c'est anticonstitutionnel, on me dira qu'il n'y aura pas de place de prison, on me dira que la peine est trop lourde, on me dira tout ce qui fait que rien ne s'arrête. La parole politique est décrédibilisée parce que chacun comprend que le chant des colères est une romance sans effet. Dans une société de plus en plus violente, il faut changer de braquet. Changer de logiciel, si vous préférez. Mais je crois déjà avoir dit tout ça. Il est 9h, Chana Lousteau.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti sont attendus aujourd'hui à Marseille. Marseille qui est de plus en plus gangrénée par le trafic de drogue. Une opération Place Nette a débuté hier dans la cité de la Castellane, l'un des plus gros points de deal de la ville. Et ce matin sur CNews, le policier Rudy Mana a tenu à défendre l'action des forces de l'ordre.
Des collègues y vont tous les jours, on a des policiers blessés tous les jours parce qu'ils interpellent ces individus qui ne se laissent pas faire. On met à disposition de la justice. Alors c'est vrai que parfois on fait un peu la gueule parce que les condamnations ne sont pas assez fortes et ça nous fout un peu les boules de voir qu'on s'est roulé par terre avec des mecs et que le lendemain ils sont libérés. Là on a des opérations qui sont mises en place, franchement ça frappe fort. On ne peut pas reprocher au ministre de l'Intérieur de faire ça parce qu'au moins il tente quelque chose, il fait des choses.
La fonction publique se met en grève. 8 syndicats appellent à se mobiliser pour obtenir de meilleurs salaires. Ce mouvement devrait particulièrement toucher l'éducation nationale et de nombreux rassemblements sont attendus partout en France, notamment devant les préfectures. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, a fêté ses 80 ans. À l'occasion de cet anniversaire, une cérémonie a été organisée à l'Élysée hier soir. Emmanuel Macron a pris la parole et a promis d'être intraitable contre l'antisémitisme, notamment après ce qui est arrivé à Sciences Po Paris. Écoutez.
Nous avons été intraitables pour réprimer l'antisémitisme où qu'il soit, dans la rue, derrière les écrans, dans nos universités. Des enquêtes ont été ouvertes pour faire la lumière sur les faits que vous avez mentionnés, Monsieur le Président, à Sciences Po. J'ai eu des paroles très claires la semaine dernière en Conseil des ministres et sous l'autorité du Premier ministre, le gouvernement veillera à ce que l'ordre républicain soit respecté.
Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal.
Merci beaucoup, Chana, Charlotte Darnella, Georges Fenech, en escale à Paris, exceptionnellement. Vincent et Hervouet.
Laissez son cul d'autoproposant.
Joseph Massé. D'abord, on vous remercie de venir nous voir de temps en temps.
Voilà.
Joseph Massé-Scarron et Gauthier Lebret. Je vous propose d'écouter d'abord Valérie Hayé, qui était pour la première fois ce matin sur CNews. C'est intéressant, c'est la députée Renaissance qui va porter le...
Européen.
Aux européennes, quoi. Future députée Renaissance aux
elle
européennes.
Elle est déjà, elle est députée oui, européenne, va, à mon avis, oui, elle va être réélue.
Bien sûr, oui. Elle est tête de liste.
Bon.
Et je vous propose de l'écouter pour évoquer le sujet de est-ce que je viens ou non à CNews pour parler et faire un débat. Écoutons.
serai présente. Moi, je parle à tout le monde et la démocratie, c'est le débat, donc présente avec plaisir. C'est sa décision, c'est la décision personnelle des candidats. Moi, je pense qu'il faut parler à tout le monde et j'irai à toutes les, je répondrai favorablement à toutes les invitations qui permettent un débat structuré dans les règles de la démocratie.
Alors, Manon Aubry, a priori, est sur la même ligne de la France Insoumise, puisqu'elle viendra à c'est ce débat organisé sur CNews. On peut rappeler la date, d'ailleurs ?
C'est le 30 mai. C'est très intéressant, puisque dans l'opinion ce matin, on peut lire un cadre de la France Insoumise qui dit effectivement que Manon Aubry devrait venir à ce débat, contrairement à Raphaël Glucksmann, parce que je cite, en parlant de Raphaël Glucksmann, « Tout le monde n'a pas la chance d'avoir France Inter pour faire sa campagne à sa place ».
Non, mais ce qui est une
voilà
réalité.
Voilà un cadre de la France Insoumise.
Ce qui est une réalité, Raphaël.
Et Léon Desfontaines du Parti communiste sera aussi
bon,
présent.
On rappelle ce qu'a dit Raphaël Glucksmann, qui ne souhaite pas venir, mais lui-même est tenu prisonnier. Je ne suis même pas sûr qu'il pense ça.
Il s'est dosé
Raphaël Glucksmann, mais voilà, il n'est pas habitué au courage, Raphaël Glucksmann. Donc voilà, c'est un fils d'eux qui est arrivé là. Évidemment, s'il ne s'appelait pas Glucksmann, il ne serait évidemment pas là où il est aujourd'hui, forcément. Il a baigné dans un environnement ultra favorable. Il veut défendre aujourd'hui les classes défavorisées en ayant grandi dans les plus beaux quartiers. Pourquoi pas d'ailleurs ? CNews n'est pas une chaîne d'information comme une autre. C'est une chaîne d'opinion qui promeut des thématiques d'extrême droite dont je ne me compte pas m'y rendre. Je ne suis pas sûr qu'il représente exactement la France populaire. Mais en revanche, il représente bien France Inter. Je trouve que c'est assez Boboland. C'est la caricature de Boboland. Il a tout de Boboland.
Et la semaine dernière, sur C8, Jérôme Guedj a dit que, député PS, il essaierait de convaincre Raphaël Glucksmann de se rendre à ce débat. Il a préféré écouter Marie Toussaint et les écologistes.
Est tenu. C'est un garçon qui est tenu. Il a même une sorte de complexe de là où il vient. C'est normal. Parce que, faut donner des gages. C'est un gosse bien né. Donc,
il est bien né, mais c'est pas tout à fait les beaux quartiers. Hein. Pardonnez-moi, parce que j'ai très très bien connu justement André Glucksmann. Et justement, à ce propos, ça me fait penser que, selon la phrase célèbre, il suffit parfois d'une personne pour épuiser un nom. Mais je reviens plus particulièrement à M. Glucksmann. Quand on a un mouvement qui s'appelle Place publique, qu'est-ce que signifie la place publique sinon l'agora ? C'est-à-dire le lieu où on discute. Le lieu, et voilà. Et donc, il est en train de nier. Donc, je propose, au lieu de place publique, qu'il rebaptisse au mouvement place fermée ou place unique.
Je peux rajouter un pied de l'âne au propos brillant de mon voisin.
Lequel ?
André Glucksmann était un grand intellectuel français. Qui s'est trompé de pratiquement toute sa vie.
Oui,
mais... dans toutes les années 70, il était...
Comme beaucoup,
il a commencé cette période-là dans les années 50.
À part Jean-François Revel,
je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. À part, il était stalinien dans les années 50, il était maoïste dans les années 60, après il était néoconservateur dans les années 90. Et vraiment, il a fait une sorte de bêtisier intellectuel fascinant, en étant en même temps, en gardant toujours les cheveux longs et quelque chose de très sympathique en lui. Bon, son fils a été, son engagement politique est tout à fait hors du commun, puisque son premier engagement, c'est en Géorgie. Il est auprès du président Saakachvili après la Révolution des Roses. Et il est le compagnon de la vice-ministre de l'Intérieur. Je vous rappelle que Saakachvili et son gouvernement ont été accusés de toutes sortes de crimes par l'actuel gouvernement géorgien, et que l'itinéraire politique de Raphaël Glucksmann, qui avait pris la nationalité géorgienne avant de partir en Ukraine, elle est très étonnante. C'est pas du tout un candidat bobo comme vous l'imaginez. C'est un personnage éminemment romanesque.
Je trouve la position de Glucksmann très blessante. Blessante à l'égard de CNews, de tous ceux qui participent régulièrement à ces émissions, blessante à l'égard de toutes les équipes qui font vivre CNews, traiter comme ça, de manière jeter comme ça l'opprobre une chaîne d'extrême droite, condamnée,
Georges Fenech,
et blessante pour les très nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Donc il y a un côté sectaire, donneur de leçons. Je trouve ça vraiment assez insupportable, c'est mon sentiment.
Et on verra si c'est récompensé ou pas par des élections, mais je crois que la vraie phrase clé, c'est que tout le monde n'a pas la chance d'avoir France Inter pour faire sa campagne.
Et c'est la France Insoumise qui le dit.
Et c'est voilà, mais ça c'est une réalité. C'est le candidat de France Inter, vous le verrez sur le service public, c'est le candidat de ce monde. C'est pour ça que j'ai dit bobo. C'est exactement ce petit monde qui vit ensemble et qui trouve que c'est un garçon très propre sur lui et qui est parfait pour défendre les idées qui sont les leurs.
Et ce petit mot, on peut le rajouter aussi. Oui.
vit, Sandrine Rousseau.
Vit, pardon, juste une seconde, vit dans l'entre-soi et vit dans l'espérance peut-être que François Hollande aura une lucarne à la prochaine présidentielle.
Mais écoutez, évidemment, il est reçu en majesté partout, François Hollande. Il est tellement drôle, il est tellement sympathique, il devrait faire du stand-up.
Il est troisième dans les sondages de popularité, baromètre IFOP pour Paris Match.
Mais allons-y, allons-y gaiement. Sandrine Rousseau, elle veut interdire ces news. Écoutons
rapide.
Fait un débat où la seule question c'est l'immigration, le grand remplacement, le danger de l'étranger. Si la seule question c'est celle-ci, ça suffit
mais
en fait.
Est-ce que CNews a dit cela ?
Mais CNews, c'est quand même sa ligne éditoriale première, c'est-à-dire que 90% du temps d'antenne c'est sur les dangers que représente l'autre. Donc ça suffit en fait. Non mais vraiment, on ne peut pas continuer dans une démocratie à pointer un seul et même responsable de tous nos maux, qui serait la figure de l'étranger. Ouvrir CNews 5 minutes, c'est entendre que les étrangers violent les femmes françaises, que les étrangers sont là pour grand remplacer.
On supprime l'autorisation d'émettre de CNews ?
Eh ben, je pense que c'est actuellement en débat à l'Assemblée nationale où il y a des auditions. Moi, je pense que il y a un message extrêmement clair à passer à CNews, qui est que ça ne peut pas être une ligne éditoriale assumée que d'empêcher le pluralisme et de marteler des informations comme celles qui sont
martelées. Il faut interdire à CNews d'émettre aujourd'hui ?
Moi, je pense que la question se pose. Oui, la question se pose.
Mais moi,
c'est génial. La définition du pluralisme, un pluraliste, c'est celui qui pense comme moi.
Moi, je pense qu'il faut la remercier, Madame Rousseau. Je pense qu'en fait, c'est une formidable attachée de presse de CNews. Vraiment, ouvrir CNews 5 minutes, c'est entendre que les étrangers violent des femmes françaises.
Alors ça, il faut répondre là-dessus. Il faut répondre là-dessus, parce qu'elle nous reproche quoi ? En fait, elle nous reproche d'avoir parlé de Claire.
Faut même pas répondre.
Elle nous reproche d'avoir parlé de Claire, qui a été violée par une personne sous OQTF. Parce que c'était pas le bon bourreau, et c'était pas la bonne victime. Donc c'est ça qu'elle nous reproche.
Enfin, personne, je vous assure...
Elle n'est pas en parler de Claire.
Je pense que c'est la meilleure attachée de presse. Je répète à tous ces gens qui peuvent venir sur notre plateau, même Madame Rousseau, je peux la recevoir en tête à tête, si elle a peur des autres, etc.
Vous ferez une très bonne audience, je pense, en plus.
Mais j'en suis convaincu, mais c'est tellement contre-productif, parce que tout ça est faux, tout ça n'est pas vrai. Donc, y a même
et
pas
à gauche, on est quand même passé de mai 68 à il est interdit d'interdire à il faut tout interdire.
Mais ils veulent tous interdire. On parlera
avec Najat Vallaud-Belkacem.
Mais je l'ai dit hier soir, Najat Vallaud-Belkacem, elle veut rationner, dit-elle, le débit Internet sur les gens. Ces gens sont.
C'est la Chine, c'est la Russie.
Ils ont. Comme ils n'ont rien à dire sur les classes populaires, qui étaient leur électorat de base, il y a 40 ans. Pierre Mauroy, il parlait aux bases populaires.
Ah, ça, c'est sûr.
Bien sûr. Comme ils n'ont rien à dire, qu'ils sont tous, effectivement, déconnectés d'une réalité populaire, Madame Vallaud-Belkacem, il y a quelques semaines, elle a voulu quitter l'engagement politique. Et elle a fait des avances pour être directrice générale d'une grande fédération de sport. Donc, voilà. Et puis, comme ça n'a pas marché, elle s'est remise dans la politique. Donc, bien sûr... Bien sûr que ces gens-là ont du mal à trouver un public à qui parler. En revanche, je voudrais que nous écoutions peut-être pour la première fois Madame Rima Hassan, qui s'est exprimée sur France Inter, précisément. Donc elle est
septième
sur la liste de LFI.
Absolument.
Et elle a parlé du Hamas, pour le coup sans ambiguïté, en parlant d'organisation terrorisme. Qu'est-ce que le Hamas, selon Madame Hassan ? Écoutons.
Depuis le 7 octobre, sur une condamnation des attaques du Hamas, qui par ailleurs j'ai qualifié très tôt d'attaque terroriste, parce que ça aussi, il faut être très clair, la manière, je pense, la plus honnête de définir le Hamas, c'est un groupe, un mouvement religieux qui s'est structuré autour d'une branche politique et d'une branche armée, et dans sa branche armée, il a assumé, à bien avant le 7 octobre, d'avoir recours à un mode opératoire qui est un mode opératoire terroriste.
Bon. Ah bah alors là, elle est en rupture quelque
là,
part avec la France
d'ambiguïté.
Insoumise. Ah non, il n'y a pas d'ambiguïté.
Là, il n'y a pas d'ambiguïté.
C'est clair.
C'est pour ça qu'attendez.
Mais il faut dire pourquoi elle sort de la polémique, parce qu'elle avait dit, lors d'une interview quelques jours, un mois après l'attaque du 7 octobre au Crillon, on lui posait la question, le Hamas mène-t-il une action légitime ? Elle avait répondu, vrai. C'est pour ça qu'elle était dans cette polémique depuis plusieurs jours.
Bon.
Non, elle est terroriste.
Alors, deuxième passage, parce qu'on découvre Madame Hassan, et vous connaissez l'honnêteté intellectuelle qui guide ici l'éditorial, donc on l'écoute et effectivement nous disons il n'y a pas de souci. Donc le rôle du Hamas et elle s'exprime également sur les perspectives pour le peuple palestinien.
Ce qui est en jeu, c'est d'abord une perspective politique pour le peuple palestinien, et ce depuis 75 ans. Donc la perspective politique, elle passe par des voies démocratiques. Je pense que c'est aux Palestiniens de choisir par qui ils veulent être représentés. Mais ce qui est très important aussi pour moi de dire, c'est que si vous condamnez le Hamas, il faut aussi condamner ceux qui ont nourri le monstre. Et ça, je l'ai dit dans une interview pour Mediapart dès le mois d'octobre. Et le régime de Netanyahou a joué un rôle très cynique sur cette question, puisqu'il a voulu sciemment nourrir le Hamas pour déjouer la perspective politique qui a été quand même portée par la voie diplomatique de l'autorité palestinienne. Alors,
et le troisième passage, sauf si vous voulez commenter.
Non, mais c'est entendable et discutable.
Ouais. On est plutôt sur une position, d'ailleurs, dans la lignée de la position française. En fait, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il faut deux États, si je comprends.
Ah non, elle est contre les deux États. Elle est pour un État binational. Oui. C'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Justement, ouais. Elle a repris plusieurs fois le slogan « From the river to the sea », du Jourdain à la mer Méditerranée. Donc, elle est contre l'existence de deux États.
Ça. Alors là, il y a ambiguïté.
Elle dit « État binational ». Ah ça, elle a pas changé de position là-dessus.
Oui, mais là, elle l'a pas dit.
Non, mais elle l'a dit, j'ai vu des extraits de France Inter ce matin, elle le redit, État binational.
C'est un rappel de Gauthier, elle a raison de le faire, parce que là c'est...
Bon. Oui, donc cohabitation totale.
Oui, cohabitation et donc les Israéliens vous disent bon. que c'est une façon de détruire l'État d'Israël en trompe-l'œil, voilà.
Bon, et la dernière passage, c'est la colonisation d'Israël dont elle parle.
Je crois qu'on a le droit de continuer à critiquer une doctrine politique qui est effectivement une dimension coloniale. Ça a été retracé pas par Rima Hassan, hein, par des historiens israéliens, Ilan Pappé, par Alain Gresh en France. Donc il y a une dimension coloniale dans le sionisme. Quand Théodore Herzl précise qu'il faut se débarrasser de la population arabe, cette population-là, ce sont les Palestiniens. Donc il y a un pan dans le sionisme qui nourrit cette doctrine coloniale, et je crois que Israël est malade de son colonialisme. Et d'ailleurs même, je trouve assez incroyable d'être attaqué pour in fine une revendication politique qui consiste à dire que je veux une cohabitation totale. C'est-à-dire que moi, mon idéal, ce n'est pas d'avoir des frontières entre les Israéliens et les Palestiniens, ce n'est pas d'avoir une logique démographique de séparation entre les Israéliens et les Palestiniens pour ce qu'ils sont, c'est une cohabitation totale.
C'est l'État binational.
Revient, en effet, à l'éclatement d'Israël. Oui,
vous avez parfaitement raison.
Demandons aux Coptes d'Égypte, parlons-leur de là aussi, vous pouvez parler de la colonisation de l'islamisme.
Hein, parce que
avec ce type d'argumentation historique qui ne tient pas la rampe.
Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'aspect politique du matin. Et la politique, c'est aussi ce qui se passe aujourd'hui à Marseille, avec la visite de Gérald Darmanin. C'est ce qui se passe également, la politique à la Courneuve. Et c'est par là que je voulais commencer. Parce que je disais tout à l'heure que ce sont toujours les mêmes mots, la litanie des indignations. Mais effectivement, rien ne change. Et on va entendre Amaury Bucco qui va nous donner des informations sur ceux qui ont été interpellés. Mais dans ceux qui ont été interpellés et qui mitraillaient la Courneuve, il y avait des émeutiers du mois de juin. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas été sanctionnés, mais ils sont déjà libres.
C'est hallucinant.
Bon, donc, ben oui, c'est
hallucinant.
En fait, c'est hallucinant. C'est hallucinant.
C'est la fameuse absence de réponse pénale.
Mais vous savez combien...
Dissuasive, j'entends. Mais... On nous a dit, oui, ben, les émeutiers ont été condamnés. La justice a montré sa sévérité. La preuve. Vous avez quelqu'un qui n'a pas été du tout dissuadé par la condamnation qu'il a dû subir en mois de juin dernier.
Et c'est l'oisiveté, Georges.
Et vous n'avez pas compris. C'était le bac. L'oisiveté. C'est comme hier, on écoutera tout à l'heure Emmanuel Macron, il parle de l'antisémitisme. Jamais il prononce le mot islamisme. Ça n'existe pas. Il parle de Maurras, il parle de Drummond, il parle de la libre parole.
Ouais. Il fait de la politique pour viser le RN. Ouais,
il parle de l'antisémitisme il y a un siècle. Moi, je voudrais qu'il parle de l'antisémitisme d'aujourd'hui. Le mot islamisme, il ne le prononce pas. Alors, il vous dira, le président de la République, que oui, il en parle tout en n'en parlant pas, etc., comme toujours. Mais la vérité, c'est que l'islamisme est une menace pour l'antisémitisme. Ouais. Ça, c'est une réalité. Eh bien, la phrase que je viens de dire, il ne l'a dit pas aussi clairement.
Non, il ne l'a pas dit.
Écoutons Amaury Bucco sur le profil de ces...
Pourtant, il avait fait cette loi sur les séparatismes. Il avait évoqué, lors de son discours, je ne sais plus à quel endroit c'était, dans les banlieues, il avait évoqué cette question. Le discours numéro, effectivement. Ouais. Cet islamisme politique,
oui.
Il en avait parlé.
Mais vous avez parfaitement raison.
Ce jour-là, depuis le 7 octobre, il n'en parle plus véritablement.
Et il n'a même pas manifesté.
Oui, tout à fait.
Donc,
C'est Yacine Bellatar qui a donné ses bons conseils.
Bon, je ne suis pas sûr quand même que ce soit Yacine Bellatar qui...
Je ne vais pas pour faire la polémique, mais bon, voilà.
Bon, écoutons en tout cas Maurice Bucaud sur le profil de ces jeunes gens qui ont été interpellés et ça va être intéressant de suivre le dossier.
Les 9 personnes interpellées pour l'attaque du commissariat de la Courneuve dans la nuit de dimanche à lundi sont toujours en garde à vue. On en sait un peu plus sur leur profil. 2 d'entre elles sont mineures, 7 sont majeures, âgées de 18 à 21 ans, soit à peu près la tranche d'âge du jeune Wanis qui est mort après avoir percuté une voiture de police mercredi soir lors d'une course-poursuite et un refus d'obtempérer. On sait aussi que ces jeunes assaillants interpellés viennent du quartier des Maraîchers à la Courneuve, comme le jeune Wanis. Et on sait aussi qu'ils sont pour la plupart connus des services de police, et notamment pour certains, pour avoir pris part aux violences urbaines l'été dernier, violences qui avaient notamment visé, là encore, le commissariat de la Courneuve.
Bon, Charlotte, que peut-on dire que, selon la célèbre question que je pose tous les jours, que peut-on dire qu'on ne sache pas déjà ?
Non, mais je pense que sur la question des émeutes, il y a une question particulière qui se pose. Parce que c'est vrai qu'on a vu d'abord une circulaire de politique pénale qui n'était pas dans les habitudes d'Éric Dupond-Moretti, qui réclamait en effet de la fermeté. Il y a eu des condamnations qui, par rapport à d'autres émeutes, étaient plus fortes. De manière ciblée. Mais là, ce que je ne sais pas, c'est quand on dit qu'ils étaient connus pour avoir participé aux émeutes, connus de qui ? De la police ou de la justice ? Oui. Parce qu'il n'y a pas nécessairement condamnation, parce qu'il n'y a pas nécessairement de preuves de participation. Vous savez, c'est extrêmement compliqué de cibler telle ou telle personne dans les émeutes. Et donc, moi, je pense que dans des émeutes comme ça, le vrai problème, c'est qu'on a des années de retard sur la réponse sur le terrain. On recule, et ils ne risquent jamais rien. Ni sur le terrain, ni devant des tribunaux,
Sur le plan judiciaire, le fait d'envoyer des mortiers d'artifice contre un commissariat de police, ça devrait être qualifié au criminel et non pas au correctionnel. Il y a une volonté de s'en prendre et de tuer des personnes.
C'est tentative d'assassinat.
C'est pour ça. Et la peine encourue, c'est effectivement la réclusion.
C'est juste ces tentatives d'assassinat.
Là, c'est
ça s'appelle,
en fait. 10 ans.
Vous voyez, quand vous dites 10 ans, vous n'êtes pas particulièrement sévère.
C'est tentative d'assassinat.
Or, la justice, malheureusement, qualifie ça de manière délictuelle, c'est-à-dire destruction de biens immobiliers, etc. Voilà. Donc, il faut voir au départ cette qualification, il faut la retenir telle qu'elle est. C'est une tentative d'homicide.
La drogue tous les jours. Alors, ce que disait tout à l'heure Monsieur Joron, qu'on a entendu dans le journal de 9h, c'est vrai qu'il faut saluer la volonté de Gérald Darmanin, d'Éric Dupond-Moretti qui sont sur place.
Absolument, qui arrivent ce matin à Marseille, tout à fait.
Et qui vont faire l'opération Place Nette.
Place Nette à la Castellane. Bon. À la cité de la Castellane.
Alors, tu fais Place Nette, mais quand tu t'en vas, on m'explique qu'ils reconstruisent le point de deal dans la seconde. Mais
Gérald Darmanin a multiplié les déplacements à Marseille. Emmanuel Macron aussi, depuis qu'il est président. Oui. En dehors de Paris, c'est la ville de France où il a dû le plus se rendre. Rien n'a changé. Hein.
Bon, Juliette Sada, voyons le sujet de la Castellane.
Une opération Place Nette menée par des dizaines de policiers, 2 compagnies de CRS, des équipes cynophiles appuyées par un hélicoptère. Déployées dès 10h du matin, les forces de l'ordre ont passé au peigne fin les caves, les voitures et les parties communes de cette cité sensible. Un dispositif impressionnant pour une opération d'envergure.
C'est ce pilonnage à travers ces places nettes et qui font qu'on peut gêner considérablement les trafics de stupéfiants. Ce n'est pas pour autant qu'on va résoudre le problème, parce qu'il faut aller au-delà, comme on le sait. Mais déjà, la population a besoin de voir sa police présente sur ce genre d'opération.
L'opération devrait durer plusieurs jours. Objectif, frapper fort dans ce quartier miné par le trafic de drogue. Une offensive qui intervient dans un contexte brûlant. Le 7 mars dernier, les plus hauts magistrats de la ville ont poussé un cri d'alarme, dénonçant une perte de terrain de l'État dans cette guerre menée contre le narcobanditisme. C'est dans ce contexte que Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti se rendront dans la cité phocéenne ce mardi.
On va évidemment continuer ensemble cette actualité. Je précise que le 30 mai, le débat il est sur CNews, mais il est également sur Europe 1. Le débat, Valérie Hayet disait tout à l'heure qu'elle serait présente. Ça sera le 30 mai sur CNews et sur Europe 1. C'est important de le signaler. Et Christophe Carré d'Europe 1 me le rappelle à l'instant. On va marquer une pause. Je vais saluer, même si on a un problème technique ce matin, ce qui fait que, et c'est dommage, Vous ne verrez pas le visage de Thomas Hill et peut-être même vous ne l'entendrez pas. Mais je lui passe néanmoins la parole parce que lui m'entend. Bonjour Thomas, c'est à vous. Et nous allons marquer une pause à 9h23 et on va revenir effectivement avec les 80 ans du CRIF, parce que ça c'est un sujet aussi important.
Le discours d'Emmanuel Macron. Hein.
On parlera de Vladimir Poutine avec vous.
Ah, si vous voulez.
Merci. Et on pourra.
C'est pas si bas, on répond.
Et puis, on est donc toujours avec notre ami qui est remonté aujourd'hui, Georges Fenech, mais hier soir aussi, qui est remonté et qui est revenu.
En pleine forme.
En pleine forme,
magnifique. Bien la marque de l'automne bronzant.
Mais, non, mais ça, c'est naturel. C'est le soleil de la Méditerranée. La peau.
Oui. Non.
Ah.
De l'Oasis.
Ah, il y a de l'huile.
Un peu plus bas.
Il n'y a pas la mer où je suis allé. Hein.
Ah.
Oui. Oui, ah oui, d'accord.
Ah oui, à Marrakech, oui, il n'y a pas la mer. Oui.
Oui.
Bon, d'ailleurs, je salue les amis marocains.
Oui, alors, vous
qui nous regardent,
qui nous écoutent beaucoup.
Ils m'ont envoyé beaucoup.
Il n'y a pas de décalage horaire avec le Maroc.
Bon, une heure.
Il y a une heure.
Ah, ils nous écoutent.
Bon, ils nous écoutent le matin.
Oui.
Ce qui est plutôt logique, et parfois aussi le soir. Mais et on salue. C'est les Marrakechis, les habitants.
Ah, vous m'avez collé hier soir.
Voilà.
Les habitants de Marrakech s'appellent des Marrakechis.
Chi. Mais il voilà. Vous a collé aussi ce matin parce que vous n'avez pas vérifié bon. Entre-temps.
Et donc, notre ami Georges, qui est de passage en escale à Paris et qui nous fait l'amitié de venir nous voir. A tout de suite. Stéphane Manigold est arrivé. Il a un coup de gueule à passer. Donc, il le dira dans quelques secondes. Mais tout d'abord, Somaïa Labidi. Bonjour Somaïa, le rappel des titres.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Gérald Darmanin vient d'arriver dans la cité phocéenne. Objectif de ce déplacement, dresser le bilan des opérations anti-drogue quelques jours seulement après des arrestations significatives dans la DZ Mafia et le clan Yoda, gang qui se livre une guerre sans merci pour le trafic. Nouvelle polémique sur les bancs universitaires, cette fois distribution de tracts à l'université d'Aix-Marseille pour une conférence sur les attaques du 7 octobre. Terrorisme ou résistance, interroge l'affiche, provoquant l'ire du syndicat étudiant uni. Et puis de quoi tordre le cou aux nombreuses rumeurs qui circulent outre-Atlantique. Une photo de Kate Middleton vient d'être publiée. Un cliché qui montre la princesse de Galles et son époux faisant des courses. Information qui n'a pas encore été commentée par le palais de Buckingham.
Merci Somaïa. En 2024, on ne change pas de logiciel. C'est has-been, me dit-on. On reprogramme l'algorithme.
Oui, juste.
On va parler évidemment de Marseille dans une seconde. On va écouter notamment des syndicats de police qui sont sans doute excédés. Mais Stéphane Manigold est venu pour pousser un coup de gueule. Alors pourquoi voulez-vous pousser un coup de gueule ?
Mais je voulais merci d'avoir Pascal de m'inviter. Ce message va s'adresser à qui ? Il va s'adresser aux consommateurs. Pourquoi ? Parce que j'espère que vous, nos téléspectateurs, vont au restaurant. Eh bien, le restaurant va être le seul pan de l'économie française où quand le consommateur vient et commande quelque chose, il ne sait pas si c'est fait maison ou si c'est pas fait maison. Il n'a pas le droit de le savoir.
Et je croyais que c'était quelque chose qui allait être mis en place.
Ah ben, non seulement ça devait être mis en place, mais je rappelle que c'est une promesse du président de la République, Emmanuel Macron.
Et pourquoi ça ne l'est pas ?
À Rungis. Ben parce qu'en fait, les syndicats qui sont en fait ni plus ni moins aux bottes des industriels, je parle notamment du chef, le grand chef Thierry Marx, qui est payé par des industriels, eh bien, s'est opposé...
Faites attention quand même aux propos qui ne se passeront pas sur la diffamation.
Je l'assume, puisque... Non mais alors, je rappelle à Thierry Marx que quand il parle à longueur de journée de bleu-blanc-cœur sur tous les plateaux de télé et dans toute la presse écrite, qu'il est soumis par une réglementation qui s'appelle la transparence. Quand on est payé, on doit dire pourquoi on est payé. Donc vous voyez, j'ai relevé en fait... Des notions stigmatisantes, notamment dans le vin. Nos amis vignerons apprécieront, puisque dans le vin, vous devez marquer consommer de l'alcool est dangereux pour la santé. Dans le tabac.
Non, mais parce qu'il intéresse les restaurants. Pourquoi ça a changé ? On devait savoir si c'était fait maison ou pas. C'est ce qu'on.
Mais en fait, c'est le manque de courage.
Bon, qu'est-ce qui a changé ? Donc, ça a été retiré de la loi ?
Oui, ça a été retiré ce matin. Là, elle va être retirée ce matin.
Cette proposition a été retirée.
Absolument.
Mais pourquoi elle a été retirée ?
Mais parce que le consommateur ne doit pas savoir
et
ce qu'il a dans ses assiettes.
Oui, mais
parce que, qu'il y a des intérêts financiers. Il y a un rapporteur qui est un
brillant.
Il y a un rapporteur qui s'appelle Christopher Weisberg qui a été nommé. Qui est député
Renaissance,
suppléant d'un ministre de l'Industrie et qui lui-même à un restaurant dans l'État de New York. Des fois que l'État de New York se dise, tiens, on va nous aussi mettre la transparence dans l'assiette.
Donc c'est lui qui est responsable,
ah
ce
oui,
monsieur
clairement.
Que vous citez.
Bien sûr.
Bon, le président de la République, on peut l'écouter, parce que je crois qu'il avait pris l'engagement...
Public.
Public. Alors écoutons ce qu'avait dit le président de la République. C'était quand la vidéo qu'on va
Au
entendre
Au mois de février 2023, à c'est... Rungis.
Bon, écoutons ce que disait le président de la République.
Monsieur le Président de la République, oui. Est-ce que dans la restauration française, on va aller chercher cette première place du classement mondial de la gastronomie avec la transparence pour nos clients?
Pas le choix, de toute façon, on veut la première place, c'est banco.
Merci.
Merci
à vous.
Merci.
J'ai pas compris, j'ai pas entendu.
Il a dit banco.
Oui, il a dit, mais pour la première place.
Pour la transparence.
Oui, pourquoi... mais c'est vague.
Non, la transparence, c'est quoi? L'Italie, a... Oui. L'Italie a mis en place, depuis 2016, la transparence, c'est-à-dire que quand le consommateur va au restaurant, il y a un flocon surgelé. Bon. Et c'est pour ça qu'on mange bien partout en Italie. Et bien là, c'est une déclaration de guerre contre l'artisanat de retirer ce texte. C'est une déclaration de guerre contre nos agriculteurs. Je rappelle que les agriculteurs, accessoirement, ils souffrent. La restauration, c'est 90 milliards de chiffres. On pourrait injecter 25 milliards dans l'agriculture. Culture française, on ne le fait pas. Donc c'est un manque de courage
affaire
politique.
À suivre et on pourra vous répondre. La personne que vous avez citée, que je ne connaissais pas, c'est
le chef Thierry Marx. D'ailleurs, vous tapez Thierry Marx publicité. Christopher Weisberg.
Comment il s'appelle ce monsieur?
Christopher Weisberg.
Bon, bah écoutez.
Brillant député.
Bah,
courageux.
S'il veut répondre, il aura le droit de vous répondre,
mais
bien
j'espère.
Évidemment.
Mais il peut même venir débattre ici. C'est de l'intérêt général.
Vraiment, s'il le souhaite, mais vous me dites qu'il habite New York, c'est ça?
Il est député de l'État de New York, il a un restaurant dans l'État de New York, oui.
Bon. Et puis vous nous avez apporté le guide du chemin.
Donc ça, c'est la bonne nouvelle.
Le guide du chemin.
Je vais vous offrir, Pascal.
Mais
quand
non,
même,
pas le les moyens, nous, d'aller dans ce grand restaurant.
Il y a des bibes gourmands à moins de 37 euros, vous mangez très bien du bon fait maison.
Bon. On revient sur la drogue et on va écouter Bruno Bartosetti, Place Net, explication, parce que c'est quand même, faut saluer
l'engagement des policiers.
Oui, mais il faut peut-être saluer aussi. Il y a une, est-ce qu'il y a une volonté là où il y a une. Comment c'est la phrase? Là où il y a
un chemin,
il y a une volonté. Est-ce que. Bon, il faut saluer quand même ça, de Gérald Darmanin de vouloir faire bouger les choses.
Oui, après, quand vous allez dans ces quartiers-là à Marseille et que vous entendez la détresse des habitants, bon, ils n'ont pas l'impression que les choses aient beaucoup
évolué. Ce qui est terrible, c'est que la Castellane, c'est le quartier historique de Zinedine Zidane. Mmh. Il est né à la Castellane et il y a 40 ans, il n'y avait pas de problème en fait. Il n'y avait pas de problème.
Donc, écoutons, la French Connection.
Maintenant, il y en a partout. Dans
la French Connection, excusez-moi, la French Connection, c'était quand même un problème.
Vous allez dans le centre-ville de Marseille, vous voyez sur les murs des impacts de balles.
Oui.
Bon, écoutons Bruno Bartosetti, s'il vous plaît.
Juge Michel.
La SNET a vocation à contrôler, bien sûr, à éventuellement interpeller, et puis à contrôler tout ce qui peut se passer dans des lieux très sensibles de Marseille, puisque, en l'occurrence, c'est le cas actuellement. Mais dans les autres... département de la zone sud et au-delà, comme on le sait. Donc c'est vrai que c'est ce pilonnage à travers ces places nettes qui font qu'on peut gêner considérablement les trafics de stupéfiants. Ce n'est pas pour autant qu'on va résoudre le problème, parce qu'il faut aller au-delà, comme on le sait, mais déjà, la population a besoin de voir sa police présente sur ce genre d'opération, et c'est très sécurisant pour cette population qui a grandement besoin de voir du policier agir dans des endroits très sensibles.
Bon, le problème, c'est que j'ai l'impression d'entendre toujours la même chose, toujours les mêmes personnes, et que rien ne change. Écoutez ce qu'il dit sur ce que doit être police et justice, comment ça doit marcher ensemble.
Je crois qu'aujourd'hui, le travail des faits à Marseille, on fait vraiment le maximum avec les moyens qu'on a, il nous faut d'autres moyens, mais il va falloir aller beaucoup plus loin. C'est important que le ministre de la Justice se déplace avec le ministre de l'Intérieur pour justement porter cette demande, c'est d'aller plus loin avec des magistrats spécialisés, avec des réponses pénales adaptées. C'est ensemble, c'est justice et police qu'on pourra faire un état des lieux de la situation qui est très préoccupante à Marseille pour aller beaucoup plus loin.
En fait, tous ces éléments de langage, et je lui en veux pas, ce monsieur, mes réponses pénales adaptées, tout ça, j'en ai tellement assez parce que je sais que ça ne changera pas. Je le sais, tu le sais, nous le savons, ils le savent. Voilà.
Non, mais juste, est-ce qu'on peut faire juste
ça change, pourquoi ça change?
Non, mais il y a une sorte de comment dire, il y a une sorte de soumission à la fatalité. Je ne parle pas de vous, hein, en général, qui est profondément scandaleux. Aujourd'hui, on célèbre, c'est une initiative qui a été créée par une association, les morts dans la rue. Il y a en France 656 personnes qui sont mortes dans la rue au cours de l'année écoulée. Il y a beaucoup de Pascal de 50 et de 60 ans d'ailleurs, et c'est pas à Marseille, hein. C'est partout dans la rue. Alors, les gens qui meurent dans la rue, deux par jour quand même, je vous rappelle que le président Macron, quand il a été élu, a annoncé qu'avec lui, il n'y aurait plus aucun SDF dans la rue. Hein. Mais il y en a 656 qui sont morts
au cours de l'année écoulée. Et vous vous rendez compte que, quand vous regardez les listes des noms, des prénoms qui est dressé aujourd'hui dans la Croix, parce qu'il y a un hommage qui est rendu ce matin aux arènes de Lutèce, il y a des gens qui viennent du monde entier, mais il y a aussi beaucoup de Français. Et quand vous interrogez, en fait, les gens qui s'occupent des SDF, vous réalisez deux choses. Un, qu'il y a énormément de gens qui sont des drogués, qui sont des toxicodépendants, qui vivent d'expédients et qui finissent par mourir comme ça, à nos pieds. Et on ne les voit plus, ils deviennent transparents. Ils deviennent totalement transparents. Il y en a, c'est la drogue. Il n'y a pas que l'alcool. Il y a la drogue, avec tout son cortège de misère.
Moi, je ne partage pas votre fatalisme.
Oui, c'est effarant. Dans un pays développé comme la France, il y a 46 ans.
Dans certains pays nordiques, par exemple, ils ont réussi.
Mais, non, mais là, on parle. Il y a une dizaine, il y a des vieux de plus de 80 ans.
Vous voulez que je vous dise.
Il y a des enfants de moins de 10 ans. Des enfants de moins de 10 ans. Non, mais ça ne vous paraît pas invraisemblable qu'il y ait des enfants de moins de 10 ans, il y en ait plus d'une dizaine qui soient morts de moins de 4 ans, pardon. Mais une dizaine de moins de 4 ans.
Vous avez raison, Vincent.
Dément.
Marine Lançon revient de Copenhague.
Oui,
ben c'est formidable de voyager.
Ben oui,
qu'est-ce
oui.
qu'elle m'a dit, la première chose ? C'est d'une propreté incroyable. Oui. Paris, c'est dégueulasse. Mmh. C'est sale, c'est immonde aujourd'hui. Quand tu reviens à Paris. Première chose qu'elle m'a dit. Deuxième chose qu'elle m'a dit, sécurité maximum. Mmh. Elle a vu, à 23h, des jeunes femmes tourner et faire de leur jogging à 23h dans la ville. Et Marine m'a dit, c'est comme si moi, je faisais mon jogging au Bois de Boulogne à minuit, ou à, oui, à 23h, ce qui est évidemment pas possible. Donc tous ceux qui reviennent de certains pays, pas tous, hein, Copenhague, c'est intéressant, ils reviennent ici, ils ouvrent grand les yeux, ils disent, mais où sommes-nous ?
On peut citer Budapest.
Où sommes-nous ?
Dans les pays nordiques,
dans les pays nordiques. C'est la tiers-mondisation du pays, vous avez parfaitement raison. C'est la tiers-mondisation de la France. Mais tout le monde dit ça, sauf ceux qui dirigent, qui ne veulent pas voir
ils ont des
et dire les choses. Mais non, ils savent bien.
Avec la mise en scène.
Mais comme ils n'arrivent pas à agir sur le réel, bah ils font du sociétal, ils font l'IVG.
Non, une promenade à Marseille. Est-ce qu'on peut revenir sur Marseille ?
Revenons sur Marseille.
Si j'avais la possibilité de poser une question à Éric Dupond-Moretti, qui aujourd'hui se déplace avec le ministre de l'Intérieur, est-ce que vous avez l'intention, tôt ou tard, mais plutôt tôt, de rétablir les courtes peines d'emprisonnement comme l'ont fait les pays nordiques.
Mais je vous donne déjà sa réponse. Il n'y a pas de place.
T'as pas de place de prison.
Mais c'est pas la peine d'aller.
Mais c'est ce que je vous dis, que ça sert à rien. Oui. Je passe mon temps à vous dire ça ne sert à rien.
Mais moi, je pose la question.
Et vous me dites quand ça, que je suis fataliste.
Mais tôt ou tard, il y aura un gouvernement qui rétablira les courtes peines d'emprisonnement.
J'en sais rien.
Juste sur.
Ça sert à rien.
Juste sur un point, on revient sur Marseille.
Ça sert deux
si
jours.
On peut revenir sur Marseille deux secondes.
Oui, allons-y.
Deux secondes.
Vous
souvenez qu'en septembre 2021, le président Macron avait fait tout un raout, était descendu avec tout un aéropage. Il avait fait un grand discours devant le palais du Pharaon.
Marseille en grand.
Marseille en grand, c'était ça. Il avait promis 1,5 milliard. Voilà. C'était vraiment le grand plan pour Marseille. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? C'est-à-dire la Chambre régionale des comptes va publier bientôt un rapport, mais vraiment au lance-flamme. Où est-ce qu'on en est ? Il n'y a rien. Il n'y a même pas un cinquième du budget qui a été fait. C'est-à-dire, il y a personne pour l'État, dans l'État réellement pour le suivre. Non mais ça, c'est juste, pardonnez-moi. Donc, là, on parle de place nette, pas place publique, hein, pour une fois, mais place nette XXL des deux duettistes, de nos deux duettistes, charmants au demeurant. Mais quand on voit que Macron, lui-même, Emmanuel Macron, est descendu pour une ville qu'il affectionne particulièrement, qu'il a débloqué des fonds et qu'il n'y a rien, il n'y a même pas un cinquième du budget qui a été dépensé, pardonnez-moi, mais on peut s'interroger.
Nous sommes d'accord. Moi, je n'ai qu'une déclaration dans l'oreille, c'est celle de Nicolas Besson, procureur de la République, qui a dit il y a quelques jours ce que vous allez réentendre.
Il faut être clair, la bataille est perdue sans stigmatiser la profession avec l'administration pénitentiaire. On sait que drogue, téléphone mobile rentre tout à fait facilement. On commence, parce que les moyens de ces réseaux criminels sont infinis, à avoir de plus en plus de problématiques de corruption de fonctionnaires de police. Et nous entamons une réflexion avec le procureur général sur des cabinets qui seraient sujets à beaucoup d'annulations de procédures. Ça peut être dû à l'incompétence, mais ça peut également être dû à la corruption. Donc on va essayer d'avoir des actions proactives et nous avons actuellement deux enquêtes en cours à Marseille sur des fonctionnaires de greffe qui sont effectivement suspectés de renseigner des membres du crime organisé.
Bon, la bataille est perdue, voilà ce que dit M. Besson, et le reste...
Avec les surveillants.
Sa bataille.
Oui,
c'est
oui.
lui qui en est le responsable, finalement. Non. Oui. L'action publique, elle est dirigée par
le procureur de la République.
Il vient de nous dire on est impuissant.
Non, excusez-moi, le procureur, comme tous les magistrats, sont quand même encadrés par la loi qui est votée par le législateur. Là, en l'occurrence, moi j'ai écouté les deux heures totales de cette audition des magistrats. Ils décrivent une situation qui est la pure conséquence de choix politiques.
Absolument.
Là, en l'occurrence, ils parlent de la question de la corruption liée évidemment à l'argent qui est en jeu. Mais sur la question de la prison, il nous dit quoi ? Récemment, par le biais d'écoutes en prison, il y a des règlements de compte à l'intérieur de la prison désormais, hein, à l'arme, très directement. Bah non, mais c'est nouveau, là, en l'occurrence, à Marseille. Sur le trafic de drogue, bah, je sais pas, eux disent que c'est nouveau, en tout cas. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont sur écoute des mecs qui, depuis leur cellule avec des téléphones portables qui sont interdits, lancent des go pour aller tuer à tel endroit, dans tel quartier, telle personne sur tel point de deal. Donc eux réclament, et il faut quand même le souligner parce qu'on tape tout le temps sur les magistrats, mais là en l'occurrence dans cette audition, ils parlent notamment de la nécessité urgente de mettre en place un régime carcéral particulier pour le trafic de drogue et particulièrement dur notamment pour éviter ça déjà et pour couper au moins quand vous prenez des têtes que vous les coupiez du trafic qu'ils sont en train de mettre en place. Mais je note que Placenet là, le gros problème de Placenet, c'est qu'il y a quand même une chose qui est très bonne, c'est que ça soulage les habitants. C'est indiscutable quand vous les sortez de la rue. Alors pour quelques temps et pour quelques jours, mais quand vous vivez au milieu de ça, même quelques jours, vous les prenez. Seulement le problème, c'est que devant la justice, on n'est pas au Salvador, on n'est même pas avec des lois anti-mafia italiennes aujourd'hui en France. Donc quand vous prenez sur le terrain, pour que la procédure tienne devant la justice, il faut des preuves matérielles de votre implication dans le trafic. Quand vous attrapez un gamin avec une sacoche et qu'il n'y a rien qui prouve, il est sur le point de deal, d'accord, mais que rien ne le prouve, vous ne pouvez pas aller. Et le problème, c'est que ça se fait au détriment, quand vous êtes super présent sur le terrain, au détriment de l'enquête. Donc c'est compliqué, je dis pas que c'est mauvais en soi, mais par contre c'est compliqué, ça rend le travail policier sur le long terme, et donc celui de la justice, compliqué.
Bon. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ces sujets, et je ne doute pas qu'on en parle encore ces prochains jours. Je voulais qu'on parle de Sciences Po également, parce que tout est extraordinaire. Vous avez le ministre, Premier ministre, qui
est hallucinant, Sciences Po.
Mais Sciences Po...
Les doyens sont hallucinants.
Mais les doyens, bien sûr, parce qu'en fait, ces gens-là, ils sont très ennuyés des ingérences de Gabriel Attal, mais ils ne sont pas du tout ennuyés de l'ingérence de...
des militants pro-palestiniens.
Exactement, des militants palestiniens dans leur amphi. C'est-à-dire que ces gens que tu n'as jamais entendus, les doyens... Mais en fait, on voit bien que... Quand je dis qu'il faut tout changer... Mon Dieu, les doyens de Sciences Po, mais tu les vires tous, voilà, d'un coup, parce que tu n'y arriveras pas. En fait, tu n'y arriveras plus. Tu n'y arriveras plus dans aucun domaine si tu ne changes pas
tout. Mais ils viennent de se piéger tout seuls, c'est un aveu magnifique.
Alors, écoutons les doyens qui, effectivement, les patrons des enseignants et chercheurs de Sciences Po, déplorent une visite inopinée du Premier ministre Gabriel Attal. C'est quand je dis qu'il faut les virer, mais je vous assure, c'est
par contre,
ça.
Les témoignages des étudiants de l'UEJF, alors c'est pas grave.
En fait. Au revoir. Au revoir, parce que si le ministre de l'Éducation supérieure avait vraiment du courage, il les convoquerait dans le bureau, il leur dirait au revoir, en fait. Au revoir.
En fait, c'est un État dans l'État, quoi.
Mais bien sûr, mais ces gens, mais c'est... Il n'y a aucune sanction. C'est pour ça qu'ils parlent, d'ailleurs, ces gens-là.
Ils sont sur la ligne de la France insoumise. Pour eux, ça n'a pas existé, ce qui s'est passé à
sanctionnés. Et comme personne ne dit rien dans ce pays, sauf parler, ah, ils sont forts pour parler. Mais autrement, il n'y a rien derrière.
Alors donc, c'est l'administrateur qui ne doit pas leur faire plaisir aussi. Vous savez, l'administrateur qui va être nommé par l'État, ça ne doit pas leur faire plaisir.
Mais c'est comme... Je vous assure, moi, je fais juste une parenthèse. Je me demande qui est ministre de l'Éducation nationale entre Belloubet et Attal, mais tu te tiens les côtes.
Ah, c'est hallucinant. Sur les groupes de niveau,
tous
c'est
les jours,
hallucinant.
Tu te tiens les côtes. Il y en a un qui dit quelque chose et l'autre qui est son ministre qui dit le contraire.
Exactement. Et à chaque fois, Gabriel Attal essaye de faire preuve d'autorité, de redire non, on va faire les groupes de niveau, mais et elle reparle derrière pour dire non, on va pas les faire.
Mais en fait, tu l'as fait venir dans ton bureau et tu la vires. Mais
non. Bah, ça ferait quand même beaucoup de ministres de l'Éducation nationale en peu de temps. On va avoir un ratio de ministres de l'Éducation nationale.
En fait, dans le privé, ça se passe comme ça. T'es pas content? T'es pas d'accord? Eh ben au revoir.
Oui, mais enfin, vous savez très bien. Oui. L'actionnaire ne peut pas. En fait.
L'actionnaire. Bon, ben donc rien ne change.
Il a eu quand même le courage par deux fois de dire non à Macron.
Excusez-moi. Oui, bah, écoutez.
Bah bon. Oui. Donc, il pouvait pas dire non.
Alors,
troisième fois.
Écoutez le sujet sur Sciences Po parce que c'est tellement un. Sortir, en fait. Tu te rends compte que dans tous les domaines, c'est un tel bordel. Pardonnez-moi de cette expression un peu triviale, que tu te dis rien ne peut changer.
Moi, j'ai demandé les inscriptions à Sciences Po la saison prochaine, est-ce que ça va chuter ou pas?
Voyez à Sciences Po le sujet à Sciences Po.
Il déplore une visite inopinée du Premier ministre. Les patrons des enseignants et chercheurs de Sciences Po Paris mettent en garde contre toute ingérence et récupération politique.
Rappelons que la liberté académique garantit le droit d'enseigner et de mener des recherches en toute indépendance, sans ingérence de quelque autorité extérieure que ce soit, y compris l'État.
Un message ferme, avec pour objectif la défense de la liberté universitaire.
Les allusions à une éventuelle reprise en main de notre établissement lors du conseil d'administration du 13 mars contreviennent ostensiblement à ce principe cardinal.
Depuis le 12 mars et l'occupation d'un amphithéâtre par environ 300 militants pro-palestiniens, Sciences Po est plongée dans la tourmente. Selon la direction, une étudiante de l'Union des étudiants juifs de France a été empêchée d'accéder à l'amphithéâtre. L'association dénonce des propos antisémites.
À l'heure où cet événement fait l'objet de désinformation et de récupération politique, il est indispensable de laisser les instances compétentes mener à bien cette mission sans ingérence extérieure.
Une enquête administrative interne est en cours, ainsi qu'un signalement au procureur de la République.
Ingérence extérieure, mais c'est précisément, on est obligé de venir à Sciences Po parce que eux qui géraient ça étaient incapables de le gérer. Donc c'est ça qui est, bon, c'est invraisemblable. Mais bon, peu importe. On va vous remercier, monsieur Manigold, d'être venu pousser votre coup de gueule. Mais vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur l'actualité des restaurants, des guides Michelin des...
Oui, parce qu'en fait, ce texte, il concernait tout le monde.
Oui.
Il concernait aussi bien les parents qui emmènent leurs enfants à l'école, le droit de savoir ce que leurs gamins mangent dans les cantines scolaires, le droit de savoir... Parce qu'on me dit, oui, donc c'est un programme pour les riches. Bah oui, mais je suis désolé, moi, dans le 93, il y a des écoles et les parents ont le droit de savoir ce que leurs gamins bouffent. À 4h du matin, quand vous sortez d'une boîte de nuit et que vous avez faim, que vous avez mangé un kebab, bah, vous avez le droit de savoir si le kebab, il est fait maison ou pas. Voilà, c'est tout. 70%,
à 4h du matin, vous n'êtes pas 70... capable de voir si 60...
Oui, mais vous avez le droit de savoir. C'est pas Bernard Arnault qui va faire la queue pour aller acheter un kebab. Je suis désolé. Donc, c'est aussi une question d'étiquette, de justice sociale, parce que, cher Pascal, on creuse sa tombe avec ses dents. Et donc, Christopher Weisberg vient d'enlever la possibilité.
C'est votre
nouvel ami, ça se fait. J'ai déjà plein de messages de grands chefs qui me disent bravo, merci, enfin. Mais on ne comprend pas.
Je n'avais jamais entendu ce nom.
Il a parlé de vous récemment.
Ah oui,
il a été très élogieux à votre égard. Il a supprimé son tweet.
Écoutez l'état de New York,
comme mais écoutez,
peu importe. Des étrangers.
Peu importe. Oui. Mais en revanche, bon, et dans le guide du chemin.
Ça, c'est quand même la série des bonnes nouvelles. C'est vous qui aimez le sport.
Oui.
Juste pour faire un parallèle. C'est pas parce qu'on joue en Champions League.
Oui.
Que le football amateur, on ne doit pas le réglementer.
Oui.
Bah, dans la restauration, c'est pareil. C'est pas parce qu'on joue dans la haute compétition que en bas, le consommateur, il ne peut pas savoir.
Quand un type, c'est pas bien ce que je dis. Un chef qui est devenu directement 3 étoiles, c'était jamais arrivé dans l'histoire.
Ah oui. Alors ça on tient à le féliciter. Ça s'appelle Fabien Ferret au Castellet. J'ai eu l'occasion d'aller tester sa table. Franchement. C'est exceptionnel. Il a 35 ans, il est bourré de talent, et je suis encore à le féliciter, mais je tiens à féliciter également Jérôme Banquetel à Paris, qui a obtenu 3 étoiles, et puis tous les nouveaux promus de cette sélection, que ce soit les étoiles vertes, les premières une étoile, les premiers 2 étoiles, etc. Donc franchement, c'est une très belle sélection.
Yannick Aleno aussi.
Yannick Aleno, absolument. Chef mentor.
Chef. Il est 3 étoiles, Yannick Aleno.
Oui, alors, et c'est un prix qui le touche particulièrement.
Oui, chef mentor. Chef mentor, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes se reconnaissent.
Et on a une tendresse particulière, évidemment, pour Yannick Aleno.
Et il vous embrasse chaleureusement. J'étais avec lui hier soir. J'ai dit, je ne peux pas rester. Oui, il était à la cérémonie, on était ensemble. Et que je ne pouvais pas rester au cocktail. Que je reprenais la route pour venir ce matin vous voir. Donc merci.
Ah, c'était où la cérémonie ?
C'était à Tours, dans cette belle ville de Tours. De belles cathédrales, de beaux châteaux. Très belle ville de Tours.
Bon.
Merci en tout cas. Vive la gastronomie. Vive la transparence. Et puis.
Bonsoir. Et
Pascal. Non, mais dernier coup de gueule. Dernier coup de gueule. Et vive la France, viens. Dernier coup de gueule, si vous me le plus que vous. Vous savez, moi, vous donnez un micro. Le dernier coup de gueule. Il faut soumettre les leaders syndicaux à la haute autorité de la transparence de la vie publique. Ce texte l'a démontré, il n'y a pas de raison.
Ah non, arrêtez avec la haute autorité.
Pascal, on a orienté de l'argent public pendant le Covid, des milliards, sans qu'on soit soumis à aucune réglementation.
Arrêtez avec vos règles.
Si, parce que les syndicats, croyez-moi, un syndicat, ce n'est pas une mafia, donc il faut les soumettre à la HATVP.
Bon, bah écoutez, merci de tout
ça. Je fais plein de copains chez vous ce matin.
Non, il n'y a pas de souci. On va recevoir un philosophe, un vrai, Nathan Dever, notre ami. Pensez contre soi-même.
Voilà, tout un programme.
Je vais vous dire quelque chose. Je trouve cette formule tellement convenue. Penser contre soi-même. Par définition, penser, c'est contre soi-même. C'est idiot comme phrase. Pardonne-moi.
dès que tu penses,
c'est
ton ami, il est au courant. Hein.
Non mais pensez à partir du moment où tu penses.
Il y a un saboteur en vous.
Mais non.
Vous avez une chose pareille.
Mais penser mais vrai, contre vrai, soi-même, le mot penser induit cela.
Évidemment.
Tibio, vous êtes tout. D'accord.
Ah, oui.
Bah évidemment, voilà. Les gens,
ah bah dis donc, il va être bien reçu.
Il va être bien reçu.
Bon, moi je vous offre le guide Michelin 2024. Que des belles tables. Bah, oui, vive la France et vive la gastronomie.
Voilà. Bon.
Ah, allez.
Salut les copains.
Moi je. Voilà. On ira au McDo ce midi.
Oh mais enfin, qu'est-ce que c'est.
Moi je vais à la cantine d'Europe 1.
Mais à la cantine, vous avez le droit de savoir ce que vous mangez, cher ami. Est-ce que c'est industriel ou
d'abord,
pas?
D'abord, on ne mange pas, monsieur. On déjeune ou on dîne. C'est des animaux qui mangent. La pause, à tout de suite. Il est 10h01, Gauthier Lebret s'en est allé et c'est notre ami Bertrand Descartes qui est là parce qu'on pourra parler bien sûr de ce qui se passe au Royaume-Uni. Et puis, nous avons un garçon qui vient régulièrement nous voir, que vous connaissez, qui a la grâce, Nathan Devers. Penser contre soi-même, Albin Michel, qui va parler de son livre et de cette philosophie, parce que vous êtes un philosophe, et je disais tout à l'heure que penser contre soi-même était idiot, comme titre, puisque, par définition, penser, c'est contre soi-même. Autrement, on ne pense pas.
Mais je vais essayer de vous convaincre, mais...
Quelle est la différence entre penser et penser contre soi-même? Quelqu'un qui pense, par définition, c'est quelqu'un qui met en place tous les arguments, les contre-arguments, bon...
Ben, on vit dans une époque où on nous demande de penser par nous-mêmes. La modernité a été inaugurée par ça. C'est Kant dans Qu'est-ce que les Lumières ? Sers-toi de ton propre entendement. Or, évidemment, les gens, quand ils pensent par eux-mêmes, ne pensent jamais en situation d'autonomie. Ils pensent toujours à partir d'un horizon, à partir d'un arrière-plan, à partir de nos héritages, de nos conditionnements culturels, religieux, intellectuels, philosophiques, de nos amitiés, bref, de tout ce qu'on n'a pas choisi dans la vie. Alors penser contre soi-même, c'est évidemment une sorte d'exigence impossible, difficile, inhumaine en quelque sorte, mais c'est, et je suis d'accord avec vous sur un point, c'est que c'est ça le vrai travail de la pensée et le vrai travail de la philosophie.
Penser qu'à soi. Oui.
C'est ce qu'on sait depuis Montaigne. Enfin, notamment en France, depuis Montaigne.
Hein. Mais à la télé, on pense qu'à soi.
Ou à Montaigne, on considère qu'il ne faut pas simplement douter, mais qu'il faut aussi apprendre à douter de son propre doute.
Bien sûr.
Mais Monsieur Pirouette est content parce qu'il aime cela, Vincent Herbert.
Non, mais non.
Pirouette et Pirouette.
Mais moi, je l'aime beaucoup.
Dans la télé, on ne pense qu'à soi. D'abord, c'est pas vrai. Il y a des gens qui.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais essayer de penser contre moi-même. Aussi.
Et puis, c'est comme dans tous les univers, dans le sport, tu penses qu'à toi, dans les.
Non, mais je vais penser comme vous.
En politique,
je vais surtout. Force,
bah, si vous pensez comme moi, c'est parfois je ne sais même pas ce que je pense moi-même.
Mais oui, c'est aussi penser contre les siens.
C'est pour ça que j'ai du mal à vous suivre.
Moi, je suis persuadé, ce serait intéressant de vous poser la question. Je suis sûr que parfois, quand vous présentez les émissions, vous pouvez savoir par avance ce que les gens vont dire
toujours
parmi vos chroniqueurs.
Et
ce qui est intéressant, c'est quand peut-être vos chroniqueurs vous surprennent. Quand ils disent des trucs que vous n'avez pas prévus. Et bien là, ils pensent contre eux-mêmes.
Et moi-même, j'aime dire parfois quelque chose, je me surprends.
Oui.
Je suis d'accord avec vous.
Donc je vous ai fait changer d'avis sur ce titre ou vous le trouvez toujours aussi
Je trouve qu'il est un peu bateau. Alors que l'autre, Comment je me suis suicidé, était bien meilleur, celui que vous aviez imaginé.
Ah oui, bah ça,
simplement, les éditeurs qui sont frileux, dont vous dire ah non, on se suicide, ça fait peur aux gens. Enfin, toutes les bêtises qu'on entend toujours, parfois. Il ne faut jamais écouter les éditeurs.
Mon éditeur est formidable.
Vous n'êtes pas très laudatif ce matin.
Laudatif, non? Pourquoi? Sur qui?
Globalement.
Mais j'ai dit qu'il avait la grâce, c'est un garçon qui a la grâce. D'abord, Somaya, attends, s'il vous plaît. Donc, soyez bien élevé avec Somaya. Excusez-moi, Somaya, et je vous demande de me pardonner. On est en retard, 10h04.
Matignon avant l'Élysée, la FNSEA et les jeunes agriculteurs reçus par Gabriel Attal. Ils entendent, je cite, « secouer le cocotier » et disent ne plus croire à la parole publique vu la lenteur de la mise en œuvre des mesures promises par le gouvernement. Les blouses blanches dans la rue, les infirmiers libéraux sont appelés à manifester aujourd'hui, leur charge absorbant la moitié de leurs revenus. Ils réclament une revalorisation de leurs actes. Et puis, nouvelle tournée au Moyen-Orient pour Anthony Blinken. Le chef de la diplomatie américaine sera en Arabie Saoudite demain, jeudi en Égypte. Objectif de ces deux déplacements, obtenir une trêve et la libération des otages.
Nathan Devers est donc là, Bertrand Descartes aussi. Et je voudrais, avant de parler avec vous, évoquer les 80 ans du CRIF. Parce que la fameuse phrase de Camus, mal nommer les choses, etc. J'ai l'impression qu'elle s'applique vraiment à ce que j'ai entendu hier soir. Écoutons M. Harfi d'abord sur l'antisémitisme.
Cet antisémitisme libéré par le pogrom du 7 octobre, c'est en France le visage tuméfié de Marco, ce sexagénaire d'un quartier populaire parisien, coupable de porter une kippa. c'est cette atmosphère parfois irrespirable pour les étudiants juifs jusqu'aux amphis de Sciences Po. C'est pourquoi nous demandons la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'antisémitisme dans les universités.
Bon, ça, je veux bien l'entendre, mais il va renvoyer dos à dos l'extrême droite, ce qu'il appelle l'extrême droite, et l'extrême gauche. Que je sache, le danger antisémitisme, ou antisémite plus exactement, ne me paraît pas tant venir de la droite que de l'extrême gauche, me semble-t-il. Écoutons M. Arfi.
L'extrême droite frappe à la porte du pouvoir. L'extrême gauche joue les provocations en attisant l'antisémitisme et le communautarisme. Et l'islamisme nous déclare ouvertement la guerre. Avons-nous oublié que la paix n'est jamais acquise et que la liberté reste toujours un combat ?
Bon, là, évidemment, j'imagine qu'au moment où il écrit sa phrase, pour qu'on ne lui reproche pas forcément tout, il pense... Mais la vérité, c'est que ce qu'il dit est comment dire, ou est faux ou n'est pas précis. Renvoyer l'extrême droite et l'extrême gauche et dire plus loin l'islamisme nous menace. Mais l'islamisme, il vient d'où ? Il vient d'où l'islamisme ? Il vient de la droite ou de la gauche ?
L'islamo-gauchisme.
Bon.
Non, mais c'est pas qu'il vient de la gauche, c'est que.
C'est ça qu'ils n'osent pas dire. En fait, ça les ennuie de dire. L'antisémitisme à droite ou n'existe pas, ou n'existe plus. Ça les ennuie. Bon, donc ils ne le disent pas. Et vous allez voir ce que dit Emmanuel Macron, lui qui parle de généalogie, il préfère parler de l'affaire Dreyfus, de la libre parole, de Drumont, que de parler de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je veux bien qu'on parle de l'antisémitisme d'il y a 100 ans. Parlons de l'antisémitisme d'aujourd'hui.
Mais il a une campagne électorale à mener, quand même. C'est beaucoup plus important.
Écoutons le président de la République.
L'antisémitisme en France, oui, a une histoire. Et cette année plus particulièrement, nous nous souviendrons encore inlassablement de ces crimes. Au camp du Struthof, libéré le 25 novembre 1944. L'antisémitisme français dispose d'une généalogie, de Drumont à Maurras, de Forisson à Dieudonné. Et il nous appartient de le rappeler, de s'en souvenir, de ne jamais être dupe de ceux qui voudraient escamoter ses racines.
Quel est le rapport entre le camp du Struthof et l'antisémitisme français ? Je vous assure, j'ai posé déjà la question hier, je n'ai toujours pas compris. Qu'est-ce que le camp du Struthof vient faire dans cette phrase ?
Mais c'est même pas ça. Si on veut parler de l'affaire Dreyfus, d'accord, alors parlons de l'affaire Dreyfus. Parlons de la position de Jaurès. Il y a quelques années, oui, de la gauche, de Jaurès, il y a quelques années, Alexis Lacroix, que je connais, avait publié un livre remarquable qui s'appelait « L'antisémitisme, le socialisme des imbéciles ». Voilà, où il épinglait Jaurès, toutes les généalogies, tous les gens autour de Jaurès, d'accord, qui n'avaient pas eu, excusez-moi, une position par rapport à Dreyfus extrêmement claire, c'est le moins qu'on puisse dire, je suis euphémistique là-dessus. Donc en plus, choisir dépend, ça oui, sur l'affaire Dreyfus, ça oui, ça non, ça oui, ça non, excusez-moi, c'est un crachat à la figure de l'histoire.
Non mais c'est pour ça qu'il y a simplement une dimension électorale là-dedans, ouais, qui est plus qu'usée avec la force des années. Il y a évidemment aussi une généalogie de l'antisémitisme à gauche, c'est renseigné et possiblement, enfin il est possible de l'expliquer, mais simplement est-ce qu'il veut être efficace aujourd'hui ? Or aujourd'hui il y a en effet un antisémitisme qui tue, c'est celui de l'islamisme, et qui est excusé voire relativisé par une partie du spectre politique qui n'est pas ni à droite ni à l'extrême droite. C'est quand même là aujourd'hui la réalité et qu'ils ont du mal à dire, ça c'est sûr.
Oui, mais moi je suis d'accord avec vous que si on fait la généalogie de l'antisémitisme, il y a incontestablement une grande tradition antisémite à gauche, dans la gauche française, européenne, c'est le point commun entre Proudhon et Marx.
D'où vient Drumont ?
En désaccord
d'où vient
Drumont, tout simplement. Sur cette question-là.
Mais c'est pas aujourd'hui. Ce qui m'intéresse,
est-ce qu'on pourrait. Il existe aujourd'hui, bien sûr.
Oui, mais est-ce qu'on pourrait, dans ce pays, parler de ce qui se passe aujourd'hui et arrêter de parler du maréchal Pétain, de l'affaire Dreyfus, etc. L'islamisme est-il un danger pour les juifs ? Voilà une bonne question.
Personne ne répondrait non. Mais donc ça, on est d'accord. Qu'il y ait de l'antisémitisme à gauche, je crois qu'on est tous d'accord.
Mais c'est même pas à gauche, là. C'est autre chose.
Oui, d'accord. Oui, mais il y a l'islamisme, l'antisémitisme qui existe à gauche, et il y a l'antisémitisme qui existe à l'extrême droite. C'est pas parce qu'il y a eu une stratégie de dédiabolisation qu'il aurait mystérieusement disparu. Éric Zemmour lui-même racontait dans son livre que pendant la campagne présidentielle, dans l'entourage de Marine Le Pen, les gens disaient un juif peut pas se présenter à la présidentielle. C'est lui-même qui le racontait. Je ne fais que le citer. Je crois qu'il est. Je ne cite pas quelqu'un d'extrême gauche pour dire ça. Donc,
Écoutons Macron, deuxième passage, l'ombre de la mort.
pensez contre vous-même.
Eh oui.
L'ombre de la mort, chacun l'a ressenti ce 7 octobre dernier, jour du plus grand massacre antisémite de notre siècle. L'ombre des armes et des drones du Hamas au Proche-Orient, sur les villages et les visages d'Israël. L'ombre de ces prisons, ou pire encore, où sont encore retenus 3 otages français. Ofer Calderon, Orion Hernandez-Radou, Oad Yalomi. Et la France œuvre et œuvrera sans relâche pour leur libération comme celle de tous les otages encore détenus par le Hamas.
Si certains pensent que l'extrême gauche et l'extrême droite sont à mettre dos à dos, je pense qu'ils se trompent. Et je précise ceux qu'ils appellent l'extrême droite, parce que je voudrais qu'on me définisse.
Ah bah non, mais là c'est très clair dans son propos, il dit sont aux portes du pouvoir, donc il cible clairement le Rassemblement National, oui. Il parle pas de...
Et dernier passage d'Emmanuel Macron sur l'antisémitisme.
Nous avons été intraitables pour réprimer l'antisémitisme où qu'il soit, dans la rue, derrière les écrans, dans nos universités. Des enquêtes ont été ouvertes pour faire la lumière sur les faits que vous avez mentionnés, Monsieur le Président, à Sciences Po. J'ai eu des paroles très claires la semaine dernière en Conseil des ministres. Et sous l'autorité du Premier ministre, le gouvernement veillera à ce que l'ordre républicain soit respecté.
Alors c'est ce que je disais en début d'émission, intraitable, intolérable, c'est toujours les mêmes mots. Est-ce que vraiment le gouvernement était intraitable sur ce qui se passe dans les universités ? Je ne le crois pas, hélas. Je ne le crois pas, hélas. Oui. Allez à l'université UT de Montaigne, pas UT, université de Bordeaux-Montaigne où vous avez fait vos études. Allez dans certaines universités françaises, hélas non. Hélas non, monsieur le président, hélas non.
Oui, mais il y a surtout quelque chose qui contrevient un peu à cette lecture très relativiste, on va dire, de la menace. C'est que Emmanuel Macron, c'est le comportement d'Emmanuel Macron lui-même. Et c'est-à-dire que quand il s'agit de taper, notamment en accusant d'antisémitisme, l'extrême droite, qui appelle l'extrême droite, il le fait sans aucun problème, sans avoir peur de diviser quoi que ce soit. Quand il s'agit de marcher, de rejoindre cette marche contre l'antisémitisme au lendemain du 7 octobre, il n'y va pas parce qu'il a peur de diviser dans le pays. Et c'est pas vis-à-vis de l'extrême droite, a priori, parce que ça le dérange pas du tout de diviser le pays sur la question de l'extrême droite. Donc c'est bien que la menace qui lui fait réellement peur n'est pas celle-ci.
C'est QFD. Il est 10h12, Bertrand Dekkers. Bonjour. Comment ça va ?
Ça va, merci.
Comment va Kate
Ben elle semble aller mieux, puisque vous voyez, elle s'est laissée photographier. Je pense qu'elle a tout fait pour être photographiée. Si on remonte à l'histoire pour que nos téléspectateurs comprennent bien, ça date de samedi. Donc la photo et la mini-vidéo ont été diffusées hier.
Il y a une vidéo
Sun, une petite vidéo sur le Sun, qui a été dealée sur le Sun, qui en a l'exclusivité, mais ça remonte à samedi. Alors, elle faisait ses courses, elle faisait ses emplettes dans un endroit qui est merveilleux, qui s'appelle Windsor Shop. Windsor Farm Shop, pardon, et c'est un petit peu la boutique officielle des Windsor. Ils vendent leurs œufs, leurs crèmes, leurs yaourts. Et alors, elle était au rayon pain, voyez-vous, et elle achetait du pain. Lorsqu'un homme de 40 ans, un Anglais, a dit « Mais cette dame ressemble très fort à Kate Middleton. » Il a eu le temps de dégainer son téléphone, de la photographier, de la filmer. Elle était déjà partie.
Et ça, c'est une photo volée, vous dites. C'est pas une photo de paparazzi.
C'est une photo volée, c'est pas une photo officielle. C'est une photo qui a été prise par un Anglais qui faisait ses emplettes, lui aussi, au même endroit. Mais ce qu'on peut dire, Pascal, si on a interprète un peu, c'est que si elle s'est rendue là-bas, à une heure de forte fréquentation, c'est qu'elle souhaitait quand même qu'on la photographie.
Ah, je pense. Pour je pense que sans être l'inspecteur Colombo, on peut...
Vous êtes d'accord.
Bon, on l'a... Là, ou Sherlock Holmes. Pour faire on l'a la morte. Vidéo, Marine Lançon, je demande à Marine Lançon. Non, on l'a pas la vidéo d'ailleurs, parce qu'elle doit pas être libre de droit.
Peut-être. Elle n'est pas libre de droit, elle a été achetée, dit-on, une fortune par le Sun, qui culmine déjà.
Ah oui, parce que le monsieur là, ce monsieur, donc il a vendu,
il a vendu
en plus.
Bah, évidemment, il a vendu tout ce deal. Alors ce qui est intéressant à dire, Pascal, vous vous souvenez, la dernière fois, on a parlé de cette photo paparazzi dans les magazines américains. Et les tabloïds anglais s'étaient mis ensemble d'accord, dans commun accord, pour ne pas diffuser ce cliché. Or, vous voyez là, le Sun n'a pas hésité à sortir
ben là, elle est bien, là, non
pour acheter la vidéo. Donc les rapports de force avec la presse ont changé. En tout cas, elle va mieux. Moi, je suis convaincu que la grande réapparition de Kate, ce sera pour la messe de Pâques, le 31 mars. C'est symbolique, c'est la résurrection, c'est le retour un peu, en quelque sorte. Et les Windsor
adorent ça. Mais elle n'est pas catholique
Elle est, non, c'est l'église anglicane. Ouais. Oui, mais pas qu'elle a la même symbolique.
Mais les Anglais
la même symbolique.
Il ressuscite également chez les Anglais. Ouais.
Et alors, comme elle va mieux, il se dit qu'elle
est la messe est le même jour. Parce que Pâques, cette année, qui est incroyablement tôt d'ailleurs.
Oui. Hein, ce sera le 31 mars dans la chambre.
31 mars. Que Pâques peut être entre le 20 mars et le 10
c'est plus tard chez
et le 10 mai. C'est en fonction de la lune.
Il n'y a que les orthodoxes pour qui. Mais pour les anglicans, c'est en effet pas acceptable.
La même, ce sera le 31 mars. Bon, alors, donc, petite info intéressante, elle pourrait, je pense, peut-être réserver son premier voyage officiel à l'étranger, à la France. Puisque vous savez, le roi ne va pas
être là, Charles III. Et vous ne pourriez pas venir avec elle à l'heure des pros?
Si vous voulez, on va essayer, on peut tenter.
Ah non, mais
si, Charles III, non mais petite parenthèse, qui ne va pas bien, on pense bien, ne se rendra pas les 5, 6 et 7 juin prochains pour le 80e anniversaire du débarquement, ça pourrait être William accompagné de Kate. Bon. Donc on croise les deux.
Et de où quand on est à Paris, à l'ambassade de Grande-Bretagne?
À l'ambassade de Grande-Bretagne, absolument, qui est du palais de l'Élysée.
Qui est la tête de Charles. Des plus belles, vous connaissez toutes les ambassades, j'imagine, en tant que... Oui, journaliste de politique étrangère. Moi, je connaissais tous les stades de foot, vous, c'est les ambassades.
Les stades de chocolat,
Et l'ambassade anglaise est merveilleuse.
Oui, c'est à côté de c'est le même immeuble que l'ambassade américaine, si je ne dis pas de bêtises.
Ah, oui,
c'est la même.
C'est la chambre de la reine. C'est le particulier de la princesse.
C'est la chambre du roi, oui.
Pauline. Mais Pascal, c'est pas certain qu'elle dorme à Paris alors qu'ils doivent se rendre en Normandie. Hein. Donc là, il faut encore. Le débarquement, c'est en Normandie.
Vous feriez l'interview en anglais?
Ah, mais moi, je parle couramment anglais, comme chacun sait, mais je n'ai pas l'occasion d'exercer ce
même. Oui.
Nathan, penser contre soi-même. Pourquoi la philosophie? Qu'apporte-t-elle à l'existence? Que change-t-elle à nos vies? D'abord, on peut traverser la vie sans être... D'abord, c'est quoi la philosophie? On peut être un philosophe sans le savoir. Il y a plein de gens que je connais qui n'ont pas théorisé la philosophie, puis tu les écoutes et tu dis, lui, il a tout compris.
Exactement. C'était vraiment l'idée de mon livre, c'était de ne pas définir la philosophie seulement comme une discipline intellectuelle, abstraite, scientifique, qui se pratiquerait à l'université, dans des bibliothèques, dans des colloques, dans des congrès, mais comme un art de vivre. Ça veut dire comme une métamorphose intérieure. Alors ensuite, évidemment, il faut lire, faire de l'histoire de la philosophie, s'intéresser aux philosophes, etc. Mais que fondamentalement, c'est une aventure vécue en première personne, et qu'à partir de là, c'est quelque chose qui est fondamentalement universel, c'est-à-dire qui concerne tout le monde, et il y a des gens qui peuvent vivre de manière philosophique sans pratiquer le métier de la philosophie. Et en effet, c'est très difficile de définir la philosophie, puisque chaque philosophe donne sa définition différente. Celle de Deleuze est très connue, l'art de créer des concepts, mais enfin, Kant en a une autre, Platon en a une autre, etc., etc.
Et c'est quoi votre philosophie?
Alors, moi, ce que j'ai essayé de faire, justement, c'est de m'intéresser pas tellement à la philosophie, mais au verbe philosopher. Un peu le dénominateur commun de chaque philosophe, c'est-à-dire un verbe qui peut nous mener dans des directions totalement différentes, croire en Dieu, ne pas y croire, penser que l'homme est libre, penser qu'il ne l'est pas, etc., etc. Mais le philosopher, je le définis comme l'art de ce que j'appelle penser contre soi-même, ça veut dire de commencer par une rupture, par un suicide, puisque vous aimez plus le mot, intérieur, consistant à avoir une sorte de vertige, de se dire le drame, en quelque sorte, de l'existence, c'est que personne n'a choisi sa naissance. Personne n'a choisi le point par lequel on va entrer dans le monde. Personne n'a choisi, moi j'ai pas choisi de naître à la fin des années 90, en France, dans une famille juive, etc., etc. Et tous ces conditionnements, et tout ce non-choix, et tout ce qui nous est imposé, va évidemment déterminer ce qu'on va penser. Et après, on va devenir la marionnette intellectuelle de ces idées politiques, sociales, métaphysiques. La philosophie commence, et à mon avis, c'est l'art d'essayer de faire cela, de prendre de la distance. On ne peut jamais totalement renier, et l'enjeu n'est pas cela, mais d'essayer de ne pas être, si vous voulez, l'otage ou la continuation automatique de sa naissance.
Écrire ce livre m'a permis de comprendre quel était le déclic qui m'a empêché de devenir rabbin. Le vertige qui m'a fait rompre avec la religion et m'engager dans la philosophie. Ce n'était pas un événement précis, ni un malheur ou une tentation, mais un sentiment aussi flottant que vif, le sentiment de ma naissance. Non, je n'ai pas choisi de naître, ce que vous venez de dire. Vous vouliez devenir rabbin jusqu'à quel âge?
Jusqu'à la fin du lycée, donc 16-17 ans, ouais. Et j'ai été passionnément fasciné par la religion juive. Mes parents sont pratiquants, mais enfin, ils sont pas juifs orthodoxes. Et j'ai eu une enfance et une adolescence vraiment de juifs orthodoxes. Enfin, je priais trois fois par jour, j'avais une kippa sur la tête en permanence, je respectais toutes les lois, même ne pas faire la bise aux filles, aller à la synagogue quasiment tous les matins. Et puis, je me destinais, et puis j'étudiais la Bible tout le temps. L'hébreu, c'était la langue de mes premières émotions poétiques, celle des prières, celle des psaumes de la Bible. Et puis donc je me destinais à devenir rabbin et j'aimais cela. J'aimais fondamentalement cet avenir. J'étais dans une synagogue incroyable, une sorte de merveille du judaïsme français, qui était la synagogue de Lévinas, qui était une synagogue qui était un mélange des cultures aussi, enfin qui tenait beaucoup à intégrer la culture française dans la religion juive. Et puis j'ai tout envoyé.
Et à votre avis, ce premier choix de rabbin précisément, c'est parce que vous étiez dans le désir de votre famille, de votre père, de votre mère?
Non, je pense pas. Mes parents, ils étaient contents de cette idée, mais c'est pas eux du tout qui me l'ont imposé.
Donc c'était quand même quelque chose de personnel que vous revisitez comme quelque chose de personnel ou quelque chose qui était le produit?
C'était les deux. Ça veut dire que si la vie est une quête de sens, une quête sur le sens de la vie, moi j'ai grandi dans une famille où le sens de la vie correspondait à la religion juive et que je suis allé vers là. Je suis allé vers cette.
Et qu'est-ce qui a fait que vous avez renoncé?
Plusieurs choses, mais je dirais, si je devais résumer en un mot, c'est le doute. Le doute qui commence à prendre de plus en plus de place par rapport à la foi. Donc je vous donne un exemple très simple. J'ai eu la chance d'étudier avec des rabbins extraordinaires, des grandes sommités, et il y avait un truc qui m'a très vite gêné, c'était que souvent leurs cours commençaient par des questions. Où on se disait qu'on pouvait aller dans toutes les directions, que la pensée allait être libre. Je ne sais pas, le rabbin pouvait commencer par dire bah, peut-être bien que Dieu n'existe pas, peut-être bien que la Bible a été écrite par des hommes, peut-être bien que ceci, cela. Et puis plus la pensée avançait dans le cours, et puis plus, à travers des raisonnements, mais qui étaient préguidés, ça veut dire que la solution, elle était là depuis le départ, c'était évident qu'ils allaient finir par retomber sur leurs pattes, ça retombait sur ses pattes. Et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait dans la religion, c'était plus la dimension philosophique, enfin involontairement philosophique, de questionner le monde, de se poser des questions, que le paquet de certitudes vers lequel on voulait aller jusqu'au bout.
On a lu ce livre avec les gens avec qui nous travaillons, et j'étais frappé qu'un jeune homme qui s'appelle Félix Perola m'a dit « c'est un des livres les plus formidables que j'ai lus ». Et je me demande si ce que vous êtes et comme vous écrivez ne déclenche pas quelque chose auprès d'un public peut-être très jeune ou assez jeune, parce que Félix est un jeune journaliste qui commence, comme si vous aviez les codes pour s'adresser précisément à cette jeune génération.
Ah ben ça me touche beaucoup qu'il ait dit ça. Je sais pas. En fait, c'est la première fois que j'écrivais un livre, c'est pas mon premier, sans me dire que j'écrivais un livre. C'était pas du tout un texte que j'avais prévu d'écrire. Moi-même, pour vous dire les choses, l'autofiction, ça me dérangeait, ou l'écriture de soi, qu'on voit beaucoup aujourd'hui s'imposer, c'était un truc dans lequel je ne voulais pas aller.
Quand on parle de soi, on parle à l'universel.
Oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'est la première fois que... ce livre, il a commencé sur un hasard fou. C'est qu'un jour, je suis à Bordeaux, j'enseigne, c'est le début de l'année, et je passe la journée à appeler mes proches et personne répond au téléphone, je comprends pas pourquoi. Le soir, je prends une petite chambre d'hôtel parce que j'avais une réunion le lendemain et qui était un peu crado, tout ça, et il y avait une cour intérieure. Et j'ouvre la fenêtre pour fumer une cigarette et en face de la cour, je vois une femme dans la fenêtre d'en face qui était très belle et qui chantait en hébreu la prière de Kippour. Et je me rends compte que c'était le jour du grand pardon, que tous les juifs... si vous voulez, célèbre, et ceux qui veulent pas le célébrer par provocation, ils savent quand même que c'est le jour du grand pardon. Et moi, j'avais oublié que c'était le jour de Kippour, et j'étais en train de faire mes cours de philosophie sans même me rendre compte de ça. Et ça m'a fait un tel choc je me suis mis à écrire ce texte, et pendant quelques semaines, comme ça, et sans me dire, je fais un livre. Et puis, au bout, je sais pas, d'une centaine de pages, quelque chose comme ça, là, j'ai compris que c'est... Mais donc, je pense que j'ai trouvé une voie, enfin, ma voie, que j'avais sans doute pas dans les précédents.
Mais c'est quand même pas un hasard que celui qui voulait être rabbin oublie le jour de Kippour.
C'est fou.
Oui,
c'est fou.
Ça, si vous me permettez, c'est...
Oui, et quand j'ai fait lire d'ailleurs mon manuscrit à mon éditeur, au début, il pensait que le premier chapitre était fictif, tellement ça avait l'air complètement fou comme invraisemblant.
Je suis convaincu que la philosophie débute ainsi par un saut intérieur, un élan immédiat et lointain qui tient tantôt à des hasards, souvent à des logiques. Qu'est-ce que le hasard, bien sûr? Toujours à des orages. Bonjour autant qu'adieu, rupture et aube mêlée, un cheminement intime qui se raconte plutôt qu'il ne s'explique, une quête, un instinct, peu importe le nom, pourvu que cette recherche soit éprouvée avant toute analyse. Est-ce qu'il faut être intelligent pour philosopher?
Ah, c'est une bonne question. Je dirais qu'il faut être volontairement naïf. Alors pas la naïveté de celle de penser par soi-même en étant dans les automatismes, répéter ce qu'on nous a dit, etc. Mais la naïveté travaillée, d'essayer de voir, de sentir les choses, de questionner les choses telles qu'elles nous apparaissent en refusant les forces du mensonge. Et une certaine forme d'intelligence peut servir à faire écran. C'est le propre de l'idéologie qu'on a tous, que j'ai sans doute aussi probablement, enfin même très certainement, et que c'est pas tout à fait la même chose de dire l'intelligence. On peut être éminemment intelligent et éminemment anti-philosophe. En revanche, s'imposer l'art de la naïveté, voilà, voir les choses à un moment, bah, précisément quand j'étais dans mes cours de religion et qu'à un moment je me disais ça suffit l'intelligence des textes, le côté, le commentaire de la Bible, le Talmud, etc. Là je suis volontairement naïf et je me dis je vois en face de moi un type qui est un rabbin passionnant, très intelligent, mais qui veut absolument se persuader que Dieu existe. C'est très naïf, c'est même très con de dire ça, on peut estimer que c'est très bête, mais à mon avis c'est ça fondamentalement la tonalité qui anime la philosophie.
C'est passionnant de vous écouter. Penser contre soi-même, devenir un autre pour émerger en soi. Cet idéal ne constitue pas seulement la méthode d'une recherche intellectuelle. Il fournit les fondements d'une éthique minimale, d'une manière de vivre ouverte sur l'altérité. Altérité des autres, bien sûr, tous ceux qui diffèrent de moi, mais à la place desquels j'aurais pu exister. Altérité des points de vue, des perspectives plurielles, des systèmes de valeurs, des façons de penser. Vous venez de dire en quelques mots l'éditorial de l'heure des pros. Et je vous en remercie grandement, contrairement à ce que certains disent, bien évidemment, parce qu'il y a de la place, justement, pour la dérision, pour la distance, pour... Et vous le savez, puisque vous êtes avec nous.
Exactement, et c'est vraiment pour ça que moi je suis ici avec bonheur. Je me souviens de la première fois où j'étais venu et Charlotte était là. Et en effet, je pense qu'on a beaucoup de désaccords, nous deux, avec Charlotte, avec Georges, etc. Moi, ça m'intéresse beaucoup d'être dans un espace de dialogue, de conversation, avec des gens dont je sais que j'ai plus de chances d'être intellectuellement plus éloigné que si j'étais avec des gens avec qui je serais par avance d'accord. Une conception de l'amitié ou de la conversation ou du dialogue qui consisterait à dire « Ah, t'as totalement raison. Non, non, c'est toi qui as raison. Non, non, et ça n'a aucun intérêt. C'est la mort intellectuelle. »
Alors en même temps, et ça c'est une vraie question, et c'est une question dans les couples, est-ce qu'il faut partager le plus de points communs intellectuel et une manière de voir la vie pareillement, ou est-ce qu'il faut être extrêmement différent et de ces différences se nourrir pour faire un chemin ensemble. Grande question, et à laquelle chacun peut réfléchir, et parfois on pense comme ça et puis le lendemain... Pourquoi vous riez, Vincent Hervouet?
On a perdu Vincent.
On a perdu Vincent.
Vous avez tellement l'esprit de contradiction que je pense contre vous-même. Voilà.
Mais c'est une vraie question. Est-ce que tu ne peux t'entendre qu'avec des gens qui pensent comme toi, qui voient les choses comme toi? Je pourrais citer à travers de nombreux exemples, mais c'est une bonne question, me semble-t-il. Oui. Est-ce que vous êtes un philosophe?
Pardon?
Voilà, bon, d'accord. Est-ce que vous philosophez, vous-même?
Oui, je suis, comme vous, un tout nouveau philosophe.
Non, mais vous n'aimez pas parler de vous. Vous cachez derrière des pirouettes et derrière l'esprit et l'humour. Mais je vois qu'il y a une sensibilité. Pirouette.
Oui, l'esprit qui toujours dit non.
Non, mais chacun.
L'esprit qui toujours dit non. Mais c'est très intéressant d'être à la fois avoir pensé contre soi-même au point de vivre sa vie contre sa vocation.
Oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. Et c'est une question de. Il y a des gens, je pense, qui font de la philosophie, mais qui savent pas forcément ce qui les a amenés. Moi, quand je suis rentré en quelque sorte dans la philosophie, j'ai perdu avant mes croyances, ma pratique. C'est pas la même chose de vivre quand vous avez un texte qui vous dit ce que vous devez faire à chaque instant, mon style vestimentaire, enfin, etc. Tous les détails, mes amis, mon avenir. Et donc, la philosophie, c'était. Ouais.
C'est une transgression confortable. Il est plus facile d'être sur le plateau de CNews que d'être seul dans sa synagogue.
Oui, j'ai pas fait le saut de la synagogue au plateau de CNews. Il y a eu un moment, mais je raconte pas ça comme une souffrance pour me larmoyer ou pour me victimiser, mais pour dire, et c'est pas du tout ça, mais c'est pour dire qu'en tout cas, à la première personne, ce que j'ai vécu quand je suis, pour moi, ce qu'a signifié la philosophie en premier, c'est l'art de s'orienter dans un monde qui n'a plus de boussole, qui n'a plus de carte, où vous êtes complètement perdu et où vous avez tous les possibles qui sont ouverts à égalité. C'est une chose bête, mais par exemple...
Charlotte. Avec cette définition, la religion peut être une philosophie aussi.
Oui.
C'est une réponse... Non, mais moi, il y a deux choses, en tout cas, que j'aborde pas de la même manière, on va dire. C'est que moi, je pense que le scandale ou l'interrogation, c'est moins la naissance que la mort. Je pense que c'est cette question-là qui fonde la philosophie, la mort beaucoup plus que la naissance, beaucoup plus que le don. En réalité, c'est vrai que nous avons beaucoup de dons à la naissance. Je sais que la modernité ne supporte pas l'idée d'avoir des dons et qu'elle interroge ça. Moi, j'interroge plus la mort. Et la deuxième chose, c'est que le rapport à ce qui a précédé, à l'intelligence qui a précédé, j'ai pas le même non plus. C'est pas parce que d'autres ont
posé les questions que je me pose avant et qu'ils y ont répondu, moi je peux y voir aussi un gain de temps et je pense que cette confiance faite à des intelligences que j'admire par ailleurs, ce qui ne m'empêche pas de me poser des questions sur ce qu'ils ont écrit, je pense que d'autres ont répondu avant nous et qu'il y a une sorte d'apaisement aussi à leur faire confiance. C'est un rapport qui est différent, on va dire, à la fois...
C'est très intéressant ce que vous dites, et notamment dans l'expression du gain de temps.
Non, mais c'est vrai.
Ils ont réfléchi pour moi.
Ben oui, c'est vrai.
Ils ont arrivé aux conclusions.
Mais par contre, vous identifiez une intelligence, soit dans un livre, soit dans des études, soit même en face de vous.
Mais parfaitement d'accord avec vous.
Vous identifiez immédiatement que que vous êtes apaisé par la confiance que vous pouvez donner à quelqu'un.
Je suis d'accord avec vous.
Eh bien,
Marine me parle. Marine Lançon voulait me dire quelque chose. Elle ne me parle plus. Ah, Emmanuel Macron se rend à Marseille. Ah, Emmanuel Macron est à Marseille, me dit Marine. C'est extrêmement important.
De 2021.
Il se rend à Marseille avec Gérald Darmanin et avec Dupond-Moretti. Bon, mais ils auraient pu emmener Gabriel Attal en même temps, mais ils n'ont pas emmené.
Juste un mot pour Nathan. Parce que la démarche de Nathan, son livre, pour moi, s'inscrit. Je suis un lecteur de Montaigne, je pense ne pas mal connaître Montaigne. Il s'inscrit exactement là-dedans. C'est-à-dire, non pas aussi un philosophe qui théorise, mais un philosophe qui écrit. Il y a deux types de philosophes, ceux qui théorisent, ceux qui écrivent, comme Nietzsche. Bon. Et qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit que être juif en France, c'est aussi participer au cours le plus intérieur de notre pensée et de notre histoire. Voilà.
Bon, moi j'aime bien l'idée quand même que la philosophie servent à quelque chose, si ce n'est que du jus de crâne.
Mais non, il faut que la philosophie ne serve à rien.
Mais non, moi je j'exprime mon avis. Maintenant, vous ça sert à rien.
Je veux
qu'elle te rende plus intelligent, plus tolérant, pourquoi pas, plus humain, plus bienveillant, plus tout ce que tu veux, mais qu'elle t'apporte quelque chose, plus libre, si vous voulez, mais qu'elle ait un effet. Si c'est simplement manier les concepts comme un intellectuel pur et dur, il me semble,
vous avez
et c'est en cela que je lui
vous
souhaite quelque chose,
d'accord avec vous.
Mais peut-être que c'est parce que je suis un esprit plus concret que d'autres.
Je suis d'accord avec vous, j'en verrai peut-être deux à l'échelle individuelle. Encore une fois, définir la philosophie, non pas comme un art des concepts, mais comme un art de vivre,
c'est quelque chose de vivre.
Moi, ce que j'aime quand je commence mes cours en L1, mes étudiants, ils me disent qu'ils font de la philosophie, souvent, parce qu'après, ils veulent faire de la médecine, du cinéma, de la politique, de l'associatif. Donc, si vous voulez, c'est des choses qui sont extrêmement complexes. Et dans le débat public, je pense que si on devait donner une fonction à la philosophie, je dirais que c'est d'essayer d'augmenter la quantité de questions qu'une société peut se poser.
Monsieur.
Et vous voyez, moi, quand je viens, quand je participe dans des émissions, quand je viens pour donner des réponses, ce qui m'arrive, je me dis, c'est pas ce que je fais de plus intéressant, parce que finalement, donner des réponses, être dans un dogmatisme, alors évidemment, c'est le jeu du débat public, mais là où je suis content de moi, c'est quand je pose une question qui, à mon avis, est elle-même sa propre réponse.
Là, je pose la question, non pas au 32-10, mais je pose la question, et Somaya Labidi, je vous pose la question des infos de 10h30.
Présence surprise du chef, Pascal, vous en parliez il y a quelques minutes. Emmanuel Macron à Marseille avec trois de ses ministres pour dresser le bilan de la lutte antidrogue. Déplacement quelques jours seulement après des arrestations dans la DZ Mafia et le clan Yoda, gang qui se livre une guerre sans merci pour le trafic. La transidentité des mineurs au cœur des préoccupations des sénateurs. Après la publication d'un rapport alarmant, la droite sénatoriale va déposer une proposition de loi pour interdire la transition avant la majorité. Proposition qui sera déposée avant l'été. Et puis cantine, transport scolaire ou encore éducation, mobilisation nationale dans la fonction publique. Plus de 5 millions d'agents sont appelés à battre le pavé pour réclamer de meilleures conditions salariales.
Est-ce que vous avez conscience, sans doute Nathan, du scandale que vous représentez? Scandale d'inégalité. Vous êtes très intelligent, vous êtes beau garçon, vous avez une forme de grâce. Dans votre berceau, des fées vous ont donné des choses que d'autres n'ont pas. Mais c'est vrai, je le dis parce que je le pense, moi je vous connais, et vous traversez la vie avec une élégance pour le moment une grâce qui fait que le monde est inégal. Le monde est inégal. Et il y a les Salieri, il y a les Mozart. Et effectivement, tout ce que vous avez reçu, de dons purs, parce que ça, c'est pas culturel, pour le coup, c'est ce que vous êtes, ce qui vous a permis d'ailleurs de faire Normal Sup. C'est pas si fréquent. C'est pas si fréquent. Et ça interroge évidemment pourquoi vous et pas d'autres.
Bah d'abord, ça me.
Je sais pas si ça rend heureux ou pas d'ailleurs, hein, mais.
Je dirais quand même que j'ai des parents qui sont absolument extraordinaires et formidables. Et je dis pas ça du tout parce que c'est mes parents et je crois que je le raconte dans le livre. J'ai voulu aussi leur rendre hommage et puis rendre hommage à tous les gens moi que j'ai rencontrés, des gens qui m'ont un philosophe qui s'appelle Jean-Pierre Osier, ma compagne. Enfin voilà. Donc je pense que c'est pas des dons naturels, génétiques, tombés du ciel qui me seraient rentrés dans ma tête. C'est aussi c'est une histoire, et une histoire, on choisit pas la manière dont elle s'écrit, le point, ce que je disais, le point par lequel on rentre dans le monde, pour le meilleur et pour le pire, et j'en suis très... Je suis conscient du bonheur et de la... Je sais pas si le mot chance est le bon, mais du bonheur que j'ai. Oui.
Tout est dit.
Oui, mais quand on a autant de dons, c'est peut-être là aussi qu'on a envie de remercier. Oui. Et quand on a envie de remercier, c'est là aussi que se pose la question de la foi.
Remercier qui?
Mais oui.
Moi, je vais remercier les téléspectateurs parce que c'est quand même.
Parce qu'ils ont la foi.
Pour moi, c'est quand même le plus important. Parce qu'ils ont la foi en nous. Et je les remercie grandement. Nicolas Baillet, était à la réalisation. Guillaume était à la vision. Marc Fontaine était au son. Merci à Marine Lançon, à Félix Perrola. Moi, j'aime bien travailler avec les plus jeunes et être très attentif à ce qu'ils disent et à l'écoute. Parce que c'est toujours pareil, peu importe qu'ils aient raison ou tort, quand ils disent quelque chose, ils le disent et ils le pensent. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Il dit ça, il a forcément raison pour lui. Il ne s'agit pas de contester ce qu'il dit, il le pense, c'est comme ça. Merci grandement à Marine Lançon qui était donc de retour de Copenhague. Merci également à notre ami Georges Fenech en escale à Paris, exceptionnellement aujourd'hui, de passage. Bon, j'ai une plaisanterie, je la ressors, hein, comme ça, ça fait des économies, ça fait des économies de plaisanterie. Est-ce que, tiens, je vais vous offrir un cadeau, le guide Michelin. Ah, vous vouliez pas dire des choses désagréables. Mais par exemple, dans le Figaro ce matin, il y a un papier très dur, hein, de M. Durand en soufflant.
Oui, mais je ne sais pas. Moi, je suis plus l'école où Perico Légas, François Simon, etc. Je préfère les lire plutôt que de... Pardon.
Bon. Voilà. Merci en tout cas, et je rappelle votre bouquin, parce que c'est toujours... D'abord, je vous remercie tellement d'être avec nous, Nathan. Nathan, penser contre soi-même. Bon. Ils ont mis une photo de vous. Hein,
c'est pas moi qui ai choisi.
Oui, c'est pas vous, mais ils ont bien compris quand même que votre visage est un argument de vente.
C'était pas du... Je sais pas, mais c'était pas du narcissisme.
Je suis bien d'accord avec vous. Donc c'est chez Albin Michel, Nathan Devers, et c'est un bonheur d'être avec vous, de vous connaître.
Réciproquement.
C'est gentil. Et merci grandement. Et Jean-Marc Morandini, dans une seconde. Et nous, nous nous retrouvons ce soir.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.